Bonjour à tous. Bonjour en ce jour de sabbat. Vous savez, une grande partie du christianisme moderne a été réduite, si l'on en croit les différentes versions et confessions chrétiennes, à une simple gestion du comportement. On accorde très peu d'importance au véritable changement, à ce que nous devons cesser de faire. On accorde beaucoup d'attention à ce que la Bible nous dit de faire, selon eux, mais dans la plupart des cas, ils se trompent complètement. Et de cette seule incompréhension du christianisme réduite à la gestion du comportement découlent des versions entièrement fausses du christianisme. Ce sont des programmes d'auto-assistance créés par l'homme qui ressemblent davantage à une thérapie psychologique qu'à ce que nous connaissons comme étant le véritable évangile. Ces versions du faux christianisme visent à réhabiliter les gens, à réformer leur comportement et à améliorer lentement ce qui, en fin de compte, ne peut être réhabilité, réformé ou amélioré. Toute cette approche repose sur une hypothèse que Dieu n'a jamais demandé à aucun être humain de faire, que chacun d'entre nous, tout être humain, peut être réparé. Cela peut sembler choquant pour certains d'entre vous, mais la Bible ne fixe pas comme objectif aux chrétiens qui vivent le vrai christianisme de s'améliorer eux-mêmes. Certains pourraient immédiatement objecter dans leur esprit, peut-être les nouveaux venus ou les plus jeunes, mais ne devrions-nous pas grandir? Ne devrions-nous pas surmonter les difficultés de notre vie? Oui. Ma réponse est oui, absolument. Les Écritures commandent sans équivoque de grandir et de vaincre le péché. Mais avant d'en arriver là, nous devons nous poser une question fondamentalement beaucoup plus basique, une question que les gens se posent rarement. Je vais donc la poser aujourd'hui. Qui Dieu attend-il de grandir et de vaincre? Vous vous dites peut-être, une fois de plus, je ne comprends pas. Mais cela ne durera pas. Tant que nous n'aurons pas pleinement compris la réponse à cette question, je vous garantis que nous connaîtrons plus de confusion, plus de frustration et encore plus de découragement que nécessaire si, et certainement quand, nous commettrons une erreur ou un péché. Cela s'applique à tout le monde, que vous souhaitiez vous faire baptiser, que vous soyez nouvellement baptisé ou que vous soyez baptisé depuis des décennies. Nous voulons éviter autant que possible la frustration, la confusion inutile, la tristesse et le découragement, car nous commettrons des erreurs, nous pouvons tomber et nous tomberons. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment éviter les niveaux inutiles de découragement et de frustration et nous mettre au travail lorsqu'il s'agit de vivre véritablement le christianisme. Par exemple, Dieu n'a pas amélioré Jacob. Il est intéressant de noter qu'il lui a donné un nouveau nom, Israël. Nous pourrions nous demander pourquoi. Dieu ne cherchait pas à obtenir une meilleure version d'Abraham, mais il lui a donné un nouveau nom, Abraham. Qu'est-ce que cela pouvait symboliser? Lorsque Dieu, lorsque Christ a rencontré Simon pour la première fois, il ne cherchait pas à obtenir une version améliorée de ce pécheur de Galilée. Il lui a donné le nom de Pierre. Et regardez Saul. Dieu n'essayait pas d'améliorer ou d'obtenir une meilleure version de Saul. Il n'y a peut-être qu'une lettre de différence, un S et un P, Saul et Paul, mais ces deux individus étaient à des années-lumière l'un de l'autre. Aujourd'hui, le monde aimerait réduire cela à un simple symbolisme, ou comme je l'ai dit plus tôt, à une gestion du comportement, en essayant de dire, Dieu essayait de faire de meilleures versions d'eux. Mais, mes frères, c'est plus qu'un symbolisme pour nous. Le monde ne comprend pas ou refuse d'appliquer les leçons qui peuvent être tirées de ce type de symbolisme. Mes frères, l'apôtre Paul a aidé l'Église à comprendre exactement ce dont je parle. Et cela nous amène au message d'aujourd'hui. Au sujet. Passons au chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Nous devons vraiment faire une pause. Si nous avons appris quelque chose dans la véritable Église de Dieu, c'est que nous devons vraiment faire une pause et lire la parole de Dieu lentement. Plongeons-nous dans les définitions, le grec et l'hébreu, afin de tirer le meilleur parti de ce que Dieu essaie de nous communiquer. Et ce que nous allons lire ne fait pas exception, car il s'agit d'une compréhension essentielle à toute mon introduction. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme avec ses œuvres. Encore une fois, nous devons faire une pause. Le monde n'a aucune idée de ce que Dieu a inspiré à l'apôtre Paul de révéler ici. Cette expression, « puisque vous avez dépouillé », est en fait un mot grec, « apekdiomé », « apekdiomé ». Et elle révèle trois choses essentielles. Premièrement, cela signifie que l'action est terminée. Ce mot est le participe moyen aoriste. Cela signifie que l'action à laquelle Paul fait référence a été accomplie à un moment donné dans le passé. Et apparemment, il fallait le rappeler aux Colossiens. Pourquoi donc? L'action est donc terminée. Deuxièmement, ils l'ont fait eux-mêmes. Le moyen signifie réflexif, faire quelque chose à soi-même. Paul a apparemment dû leur rappeler cela aussi. Quoi qu'ils aient fait, ils l'ont fait eux-mêmes. Ou quoi qu'il se soit passé, ils l'ont fait eux-mêmes, c'est ce qu'il essayait de communiquer en utilisant ce mot particulier. Et troisièmement, ce mot ou cette expression signifie se défaire entièrement, se débarrasser complètement de quelque chose ou de quelqu'un. L'apôtre Paul me rappelle donc que je me suis débarrassé de l'ancien car il y a plus de 10 ans. Ce n'est pas ma femme qui l'a fait. En fait, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Ma femme ne m'a pas changé ou remplacé par une meilleure version de car, même si, à l'époque, si vous lui aviez posé la question, elle aurait peut-être répondu, j'aurais aimé avoir cette option. Mais elle ne l'a pas fait. Et ce qui est choquant dans ce mot, c'est que Dieu ne l'a pas fait non plus. C'est moi qui l'ai fait. Et nous allons approfondir cette question. Si nous ne comprenons pas cette phrase, nous pouvons, comme je l'ai dit plus tôt, lutter plus que nécessaire avec quelque chose d'aussi simple que le mensonge. Car le contexte était « ne vous mentez pas les uns aux autres ». Examinons plus en profondeur ce que cette phrase signifie réellement, car à mon avis, c'est juste une façon douce de décrire ce qui vous est réellement arrivé si vous êtes baptisé, ou ce qui m'est arrivé lorsque j'ai été baptisé il y a plus de 10 ans. Et c'est une très belle façon de dire, voyant que vous avez renoncé. Allons au chapitre 6 de l'Épître aux Romains et voyons ce qui s'est réellement passé. Silence. Jeunes gens, futurs membres qui vous préparez au baptême, écoutez très attentivement ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains, comment il leur a expliqué, de manière légèrement différente de ce qu'il a dit aux Colossiens. Romains, chapitre 6, verset 3. C'est une question. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés dans sa mort? Eh bien, c'est assez fort, si vous voulez, on pourrait dire au moins symbolique. Verset 4. Nous allons le parcourir très rapidement. C'est pourquoi, voilà, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Verset 6. Sachant cela, sachant les deux choses que je viens de vous dire, que notre vieil homme est crucifié avec lui. Quoi? Afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Maintenant, nous pouvons tous comprendre, et je suis sûr qu'il existe de nombreuses versions du christianisme qui peuvent apprécier les différences que les Écritures peuvent apporter dans la façon dont une personne pense ou agit. Mais, mes frères, cet événement et cette action n'étaient pas simplement symboliques, sinon Paul ne l'aurait pas dit ainsi. Ne pensez pas que quiconque puisse connaître un changement durable sans que le premier événement, le plus important, ne se produise dans la vie d'un être humain, la mort de notre moi actuel. Car la crucifixion, si vous y réfléchissez bien, n'est pas un processus, c'est un événement brutal. Elle était destinée à détruire complètement celui qui était pendu au poteau, à l'arbre. La crucifixion n'était pas destinée à réformer quelqu'un, elle était destinée à le tuer. Et nous n'enterrons pas les vivants, réfléchissez-y logiquement. Les baptêmes sont destinés à l'ancien moi, si l'on repense à Colossiens 3, qui a accepté le jugement de Dieu sur sa vie et la sentence de mort sur sa vie et qui s'est volontairement rendu à son exécution. Et cette exécution, comme il est dit ici, c'est que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Jacob devait donc mourir pour accomplir sa vocation d'Israël. Prince avec Dieu, c'est ce que cela signifie. Simon a dû mourir pour que Pierre puisse donner sa vie à la cause de l'Évangile. Saul a dû mourir pour que Paul puisse devenir apôtre des gentils. Il en allait de même pour les Colossiens, comme pour les Romains, et comme pour vous et moi. Et ceux qui refusent de se dépouiller entièrement de l'ancien homme finiront par être détruits et mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Galates chapitre 6, continuons. Nous allons consacrer la majeure partie de ce message à passer d'une lettre écrite par Paul à une église à une autre. Et nous ferons des allers-retours. Galates chapitre 6. Paul n'a pas seulement révélé cette vérité aux Colossiens ou aux Romains. Ce n'était pas une connaissance qui leur était exclusivement réservée. Il a dit aux Galates ce qui suit. Verset 14. Loin de moi la pensée de me glorifier, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ maintenant, ralentissons un peu. Par lui, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Arrêtons-nous là un instant. Si l'apôtre Paul avait simplement ajouté « suis crucifié » après le mot « moi », cela aurait été encore plus clair. Mais son sens est sans équivoque. Lui aussi a été crucifié. Je suis crucifié pour le monde. Mort à lui, mort au péché. L'ancien Saul était inutile à Dieu. Et je le répète, nous l'étions aussi. Dieu n'avait absolument aucun usage pour l'ancien Car, pour l'ancien Frody, ou pour l'ancien Fred, ou Sally. Insérez votre propre nom. Dieu n'avait aucun usage pour vous. Ce que nous devons donc continuellement mettre à mort dans nos vies, mes frères, c'est toute idée que notre ancien moi est toujours vivant. Nos anciennes façons de nous comporter. Penser que nous luttons contre notre ancien moi et peut-être contre notre façon d'agir, que ce soit comme notre père ou comme notre mère, que nous avons continué à porter tous ces traits dans l'eau baptismale et à en sortir. Ce qui vit, c'est le souvenir de notre ancien moi. Le souvenir de la façon dont nous avons grandi et dont nous avons appris à penser et à agir. Mes frères, cela m'aide dans mes luttes à me rappeler que mon combat n'est pas contre un ancien car qui se lève parfois de sa tombe aquatique. Non. Alors, qui Dieu attend-il pour grandir et vaincre? Telle est la question. Car j'ai dit sans équivoque que les Écritures nous commandent de grandir et de vaincre. Mais qui grandit et vainc réellement? Continuez à lire ici. Verset 15. Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement d'être une nouvelle créature. Que la paix et la miséricorde soient sur tous ceux qui marchent selon cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Bien sûr, nous sommes l'Israël spirituel. Dieu attend de ces nouvelles créatures qu'elles grandissent et triomphent. Dieu nous a créés pour marcher en accord avec ce que nous sommes, et non avec ce que nous étions autrefois. Être juif ou païen ne procure aucun avantage à personne, mes frères. Être baptiste, catholique, méthodiste, bouddhiste, hindou ou musulman non plus. Réfléchissez-y, juste une petite parenthèse ici. Remarquez que la paix et la miséricorde sont promises à quiconque marche conformément à cette règle. Ainsi, la paix et la miséricorde de Dieu, frère, reposent sur les nouvelles créatures, et non sur les anciennes. Si vous essayez de ressentir la paix et la miséricorde de votre ancien moi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Seuls ceux qui marchent selon cette règle bénéficieront de la paix et de la miséricorde. C'est pourquoi personne dans le monde ne peut véritablement connaître la paix et la miséricorde de Dieu, car personne n'est une nouvelle création. Colossiens chapitre 3, revenons à notre point de départ. Oui, afin de ne pas nous éloigner trop des Écritures que nous allons étudier aujourd'hui. Reprenons à la deuxième moitié du verset 9, puisque vous avez dépouillé le vieil homme et ses œuvres. Rappelez-vous, participe moyenne à aoriste. Verset 10, et vous avez revêtu le nouvel homme, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Dieu a créé cette nouvelle création, cette nouvelle créature, où il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, Christ est tout et en tous. Mes frères, nous devons nous rappeler que le vrai christianisme n'est pas une seconde chance pour améliorer notre ancien moi. C'est la fausse version du monde. Quiconque pense pouvoir changer avant que son ancien moi ne soit crucifié et enseveli lors du baptême passe à côté du changement le plus important. La repentance signifie le changement. Et tout comme nous l'avons lu il y a quelques instants, l'expression « revêtir » est également au participe aoriste moyen. Cela signifie que l'action est terminée. Elle a déjà eu lieu. Elle est réflexive. Nous l'avons faite nous-mêmes. Ni ma femme, ni Dieu, ni aucun ministre ne m'ont débarrassé de mon ancien moi. Ils ne m'ont pas non plus revêtu ou paré, c'est ce que signifie ce mot, de mon nouvel homme. Je pense au baptême lorsque certaines femmes sortent d'ici et que les hommes sortent de la baignoire. Une serviette les attend. Et en réfléchissant à cette partie de l'Écriture, je me suis dit que cela pouvait certainement être un symbole de notre revêtement, de notre parementation de l'homme nouveau que Dieu nous a donné, juste avant que les mains ne soient posées. Silence. Dieu a créé mon nouvel homme en Christ. Je l'ai revêtu lorsque j'ai baissé la tête et permis que l'on m'impose les mains il y a plus de 10 ans. Je regarde les nouveaux hommes devant moi. Ce n'est pas non plus simplement symbolique. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il nous est dit de voir chacun comme nouveau. Je pense que vous savez où cela nous mène en termes de dépassement des difficultés, même entre nous. Nos familles nous voient toujours comme les anciens. Elles pensent que nous sommes toujours l'ancien Car, l'ancienne Frody, l'ancienne Sally et l'ancien Fred. Mais lorsque nous nous regardons les uns les autres, nous savons que nous sommes un nouveau Car, un nouveau Frody, une nouvelle Sally, un nouveau Fred. Insérez votre nom ici. Et en fait, insérez le nom de la personne avec laquelle vous ne vous entendez peut-être pas actuellement à l'église. Silence, pourquoi ? Pourquoi Dieu prendrait-il des mesures aussi extrêmes pour communiquer ses vérités par l'intermédiaire de l'apôtre Paul ? Parce que Dieu n'accepterait qu'une nouvelle créature en Christ, qu'il serait prêt à développer et à aider à grandir. Galates, chapitre 3. Je pense que nous y sommes déjà allés une fois. Verset 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ouvrez votre Bible à ce passage. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Oh là là, cela semble répétitif, un thème récurrent dans le Nouveau Testament. Ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, selon la promesse. Les frères, individuellement, sont devenus des hommes nouveaux avec une nouvelle identité. Et ce n'est pas difficile à comprendre. C'est parfois difficile à retenir lorsque nous traversons des moments difficiles, ou lorsque nous pensons que notre ancien moi est revenu de manière remarquable et miraculeuse d'entre les morts. Cela peut être extrêmement frustrant. Ce n'est pas difficile à comprendre. Il est difficile de se rappeler que je suis en regardant un homme nouveau dans le miroir, que je regarde des hommes et des femmes nouveaux devant moi, quelle que soit la situation. Parfois, nous devons simplement nous arrêter et nous en souvenir. Dieu, en tant que Père, a toujours voulu des enfants de foi, de justice et de sainteté, comme Abraham, Israël, Pierre et Paul. Encore une fois, pour revenir à mon argument précédent, Dieu ne cherchait pas des versions améliorées d'Abraham, Jacob, Simon ou Saul. Il ne cherchait pas non plus, et ne cherchera jamais, des versions améliorées de nos anciens moi, de nos anciens moi. Vous m'avez devancé. Passons au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens et lisons ce que j'ai mentionné il y a un instant. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, et lisons ce que j'ai mentionné il y a un instant. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. Silence, verset 17. Passons directement à l'idée qui s'y trouve. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères, ce ne sont pas de simples mots symboliques sur des pages. Sinon, nous ne serions qu'une version parmi tant d'autres de gestion du comportement que les religions du monde essaient d'offrir aux gens. Cela doit être vrai. Paul le répète aux Corinthiens. Encore une fois, une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pas certaines choses, pas une partie des choses. Tout ce qui est ancien a disparu. Même les compétences et les talents que j'avais autrefois ont disparu. Je m'en souviens. Mais ces compétences et ces talents entre les mains de Dieu en tant que nouvelle créature, animée par l'Esprit de Dieu, guidé par sa parole, c'est autre chose. Une partie de la définition de « disparu » signifie « périr » ou « négliger ». L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que les choses anciennes, leur ancien moi, leurs attitudes, leur façon de penser et d'agir, ont toutes péri. Nous avons récemment entendu parler de l'importance de ne pas oublier et de se souvenir de Dieu. Il est également crucial que nous n'oublions pas et que nous nous souvenions de ces choses dont nous parlons. J'ai mentionné plus tôt dans Galates 6 le fait de marcher. Ceux qui marchent selon cette règle, tout cela nous conduit à la raison la plus importante pour laquelle Dieu nous a donné une nouvelle vie, un nouveau moi. Revenons au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. J'ai sauté une partie du verset 4. Je vous ai pressé parce que ce n'était pas le bon moment pour révéler ce que je voulais révéler maintenant, la raison pour laquelle Dieu nous a donné une nouvelle vie. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Mes frères, Dieu nous a créés chacun en Christ pour marcher dans une vie nouvelle. Le contraire serait de marcher dans l'ancienne vie. Pourquoi Paul nous dit-il cela? Comme je l'ai déjà dit, les souvenirs et les habitudes de notre ancien moi persistent. Et cela peut influencer notre nouveau moi. C'est le danger auquel nous sommes confrontés. Nous ne sommes pas confrontés à notre ancien moi, mais aux souvenirs persistants, à notre façon de penser, à notre façon d'agir, à nos attitudes passées. Nous pouvons nous souvenir de tout cela, et notre nouvelle personnalité peut être inutilement influencée par ces souvenirs. La plupart d'entre vous ont déjà entendu le dicton « On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux singe ». En voici un autre, encore meilleur. On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un chien mort. Lorsque nous tombons, que nous faisons des erreurs ou que nous péchons, ce n'est pas notre ancien moi qui est en cause, mais notre nouveau moi. Cependant, à cause de la convoitise et de l'orgueil, qui sont en quelque sorte un thème récurrent chez moi depuis juillet, en coupant les sources d'alimentation du péché, notre nouveau moi est incité à apprendre de vieux tours. Rappelez-vous, nous ne combattons pas notre vieil homme qui agit comme notre père ou notre mère. Il est mort. Elle est morte. Nous luttons pour ne pas agir, penser ou avoir les mêmes attitudes que lui. Voyons donc ce qu'implique le fait de marcher dans une vie nouvelle. Sachant qu'il fallait d'abord se dépouiller du vieil homme et revêtir le nouveau, ce qui est accompli au moment du baptême. Éphésiens chapitre 4. Voyons maintenant, nous sommes maintenant prêts à apprendre comment marcher dans une vie nouvelle. Car le seul qui puisse marcher dans une vie nouvelle, c'est notre nouvel homme, nos nouveaux hommes. Éphésiens chapitre 4. Laissez-moi vous rattraper. Silence, Éphésiens 4, verset 20. Mais vous n'avez pas appris ainsi Christ, si toutefois vous l'avez entendu et avez été enseigné par lui, selon la vérité qui est en Jésus, que vous vous dépouillez, verset 22, que vous vous dépouillez, c'est un temps différent, ce n'est pas le participe moyen aoriste, que vous vous dépouillez de votre ancienne manière de vivre ou de comportement, c'est ce que signifie ce mot, de l'ancien homme, qui est corrompu par les convoitises trompeuses. Ainsi, marcher dans une vie nouvelle, frère, exige d'abord que nous nous débarrassions de toute conduite antérieure. Cela s'applique à tout comportement pécheresse avec lequel nous pouvons être aux prises, maintenant ou dans le passé, ou peut-être même dans le futur. Nous approchons rapidement de la saison précédant la Pâque. C'est le moment de l'année où nous nous concentrons plus profondément sur l'examen de conscience, non pas que nous ne devrions pas le faire continuellement tout au long de l'année, mais c'est la saison précédant la Pâque. Il est important de comprendre que nous ne diagnostiquons pas un cadavre. Nous connaissons la cause du décès. Ce n'était pas une mort naturelle, c'était une crucifixion. Vous souvenez-vous de la question posée au début ? Qui Dieu attend-il de grandir et de vaincre ? Vous souvenez-vous de ma réponse précédente ? Eh bien, répétons-la. Verset 23. Et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, ici même, en continuant ce que nous étions en train de lire, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Dieu ne développe pas l'ancien homme. Il développe le nouvel homme. Dieu veut que l'homme nouveau grandisse et triomphe dans la justice et la véritable sainteté. Nous l'examinons donc pendant la période précédant la Pâque pour voir s'il se comporte comme l'ancien. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'homme nouveau peut être incité à se conformer au monde, tout comme l'était l'ancien. Je le répète, l'homme nouveau peut être incité à se conformer aux voies du monde, tout comme l'étaient nos anciens moi. Et lorsque cette pression se fait sentir, et elle se fait sentir, vous le savez tous, jeunes gens, membres potentiels, même ceux qui fréquentent l'Église depuis des décennies, vous comprenez les pressions qui s'exercent lorsque l'on vit dans ce monde. Nous devons nous dépouiller et permettre à Dieu de renouveler notre intelligence, ce qui nous aide à vivre selon la justice et la véritable sainteté. Ainsi, Marcher dans une vie nouvelle s'applique à tous les domaines dans lesquels nous pouvons rencontrer des difficultés et que nous pouvons identifier pendant la période précédant la Pâque. L'apôtre Paul ne parle pas en termes généraux de cette question, de ce sujet. Il est très précis lorsqu'il s'agit de revêtir et de se dépouiller, c'est-à-dire de marcher dans une vie nouvelle, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Revenons en arrière. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Verset 8. Mais maintenant, vous vous dépouillez aussi de tout cela. Nous savons donc que nous avons affaire à de nouvelles créatures. Paul n'est pas confus. Il sait qu'il s'adresse aux nouveaux hommes qui ont été créés par Dieu et qui ont été revêtus par ces individus eux-mêmes. Dépouillez-vous de tout cela, colère, irritation, malice, blasphème, paroles obscènes qui sortent de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Nous sommes revenus à notre point de départ. L'apôtre Paul nous commande de nous dépouiller de tout cela, non pas de le gérer, non pas de le justifier, et certainement pas de le répéter. Et, encore une fois, il ne résonne pas avec notre ancien moi qui tolérerait ou essaierait d'éliminer progressivement ou de justifier ou d'expliquer pourquoi nous faisons ces choses ou ressentons ces choses. Il s'adresse au nouvel homme. Voilà, mes amis, ce qu'est la vie chrétienne 101. Oh, et c'est aussi la vie chrétienne 202, 303, 404, 505. Et si vous êtes dans l'Église depuis 50 ans, 5005. Quel que soit le nombre d'années passées dans l'Église, c'est juste plus ou moins avancé. Nous continuons à rejeter les choses que notre nouvel homme commence à assumer. Il comprenait aussi le processus ici. Lisez-le très attentivement. La colère refoulée devient la fureur. La fureur engendre la malveillance, et la malveillance s'exprime par la parole et les actes. La mauvaise volonté envers quelqu'un, le désir ou la volonté de faire du mal à quelqu'un. La colère fait référence à de forts sentiments d'agacement. Maintenant, qui n'a jamais éprouvé de forts sentiments d'agacement? Même les nouvelles créatures en Christ peuvent éprouver de forts sentiments d'agacement. Il ne dit pas que c'est un problème. Cela peut aussi signifier des sentiments d'hostilité. Considérez cela comme l'irritation que vous éprouvez envers quelqu'un à cause d'offenses que vous ne parvenez pas à oublier. Quelqu'un vous offense. Vous vous mettez en colère. La colère couve. Et si elle couve assez longtemps, la fureur finira par éclater. Elle doit trouver un exutoire. La fureur désigne une colère explosive. Et comme pour la colère, on peut dire la même chose de la fureur. Pourquoi développerions-nous de la malveillance, de la mauvaise volonté ou des intentions malveillantes envers quelqu'un, voire envers Dieu? Détruire l'œuvre de Dieu, essayer ou penser que vous pouvez le faire, et même élaborer des plans pour y parvenir. Ce n'est pas comme si cela ne pouvait pas arriver. Ce n'est pas comme si nous ne l'avions jamais vu. La colère s'est transformée en fureur, mes frères, et la fureur s'est transformée en malveillance. Pourquoi blasphémer Dieu? Pourquoi utiliser un langage obscène? Pourquoi mentir à propos de quelqu'un, murmurer contre lui, colporter des ragots à son sujet ou à propos de quelqu'un d'autre, si nous ne ressentons pas une certaine malveillance? Alors, comment nous en débarrasser? Eh bien, je n'ai pas de tableau de comportement. Je ne peux pas vous en montrer, et je ne le ferai pas. Je n'ai pas de techniques émotionnelles à vous enseigner. Je n'ai pas de conseils du genre « compter jusqu'à 10 ». Je n'ai rien de tout cela à vous offrir. Je vais simplement laisser l'apôtre Paul vous expliquer comment vous débarrasser efficacement de ces choses, et ce n'est pas compliqué. Il suffit de quelques étapes. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À la fin de ce message, certains diront peut-être, ouf, je suis épuisé d'avoir parcouru la Bible d'un bout à l'autre. Non, nous ne pouvons pas dire cela. Nous restons ici, dans ces lettres. Nous pourrons peut-être passer à autre chose bientôt. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Le voici. Vous vous souvenez du pipeline? Colère, rage, malice, blasphème, propos obscènes sortant de votre bouche, mensonges les uns envers les autres. Voici ce que dit Paul. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voici une réflexion pour éviter de pécher à cause d'une émotion que nous pourrions ressentir, car nous ressentons tous des émotions, ne la laissez pas s'attarder. Arrêtez-les dès que possible. La rapidité est importante dans ce domaine, mon frère. À tel point que les Écritures nous donnent un délai. Petit rire, oh, j'ai toute ma vie pour me réhabiliter. J'ai toute ma vie pour surmonter cette offense. J'ai toute ma vie de chrétien pour surmonter la colère que je ressens envers un tel. HMM, voyons voir. Le coucher du soleil. Quoi que vous ressentiez en ce moment envers qui que ce soit, vous avez jusqu'au coucher du soleil. Silence, je me demande combien ont enfreint la limite de vitesse minimale dans leur vie. Vous avez déjà vu cela? Vitesse minimale 45. J'ai toujours trouvé cela hilarant. Étant un jeune homme je n'allais jamais respecter la vitesse minimale. Mon souci était de dépasser la vitesse maximale. Mais quand il s'agit des sentiments chrétiens, nous pouvons toujours vouloir nous rabattre sur la voie de droite. Peut-être que certains d'entre nous sont tellement ennuyeux qu'ils se placent en plein milieu, ou même quand nous voulons vraiment être ennuyeux envers les autres et que nous ne voulons pas dépasser nos sentiments, nous nous mettons sur la voie de dépassement et roulons à 35 dans une zone limitée à 65. Mes frères, nous pouvons faire cela en tant que chrétiens. Cela peut sembler humoristique, mais en réalité, ce n'est pas drôle. Si nous ne le faisons pas immédiatement, nous devons être assez rapides pour battre le coucher du soleil. Silence, maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Un peu effronté, comme on dirait en Angleterre. Eh bien, que se passe-t-il si je me mets en colère contre quelqu'un après le coucher du soleil? Je vais vous donner jusqu'au lever du soleil. Ou je suis prêt à conclure un accord avec vous. Puis-je avoir au moins jusqu'au prochain coucher du soleil? Ah, d'accord, je laisserai votre conscience vous répondre. Discutez-en. Priez à ce sujet. Vous êtes pressé par le temps. Soyez ouvert sur ce que vous essayez d'accomplir avec vous-même. Dieu ou la personne envers laquelle vous êtes en colère. Si vous êtes en colère contre Dieu, soyez ouvert avec lui. Discutez-en. Dites-vous à vous-même, dites à Dieu, dites à la personne envers laquelle vous éprouvez ces sentiments, que vous êtes déterminé et que vous vous efforcez d'obéir à ce verset. Je veux surmonter cela avant le coucher du soleil. Cela peut sembler étrange. Vous n'utiliseriez peut-être pas ce genre de langage, mais même les gens dans le monde disent, « Eh bien, je ne veux pas aller me coucher ce soir tant que cette question n'est pas réglée entre nous, chérie, chérie, comme toujours utile. » Même pour les personnes non converties, cela s'applique. C'est notre nouvel homme. Nous avons une obligation. Cela ne s'applique pas nécessairement uniquement entre frères. Bien sûr que si, mais dans tous les domaines de la vie. Tous les péchés mentionnés dans Colossiens 3 partagent un danger commun, ils grandissent lorsqu'ils ne sont pas contrôlés. Choisissez n'importe quel péché, choisissez un péché. Choisissez une carte, n'importe quelle carte. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre méchanceté. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre blasphème. Ne laissez pas le soleil se coucher sur vos propos obscènes. Ne laissez pas le soleil se coucher sur vos mensonges. C'est un seuil bas, si je puis m'exprimer ainsi. Ce n'est pas un objectif élevé qui vous laisse beaucoup de marge de manœuvre. C'est avant le coucher du soleil. C'est un seuil bas. Vous devez le franchir. Vous devez respecter la date limite. Ecclésiaste, chapitre 7. Cela vous aidera un peu. Mon intention n'est pas de passer en revue chaque péché, mais de vous donner les bases pour simplement remettre à plus tard. Ecclésiaste, chapitre 7. Continuons. Au verset 9, ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. J'aime toujours pouvoir utiliser le mot « insensé » de manière juste. Il est insensé de se mettre en colère précipitamment, car vous savez quoi? Ceux qui se mettent en colère précipitamment la laissent généralement reposer dans leur sein. Et Salomon dit que ce n'est pas sage, ou pour le dire clairement, que c'est insensé. Je peux le dire, en particulier lors d'une mauvaise journée où je commence à me mettre en colère plus rapidement. Avez-vous déjà vécu une de ces journées? Votre patience s'amenuise. La moindre petite chose vous met en colère. Attendez une seconde. Je ne parle pas de moi. Je parle de vous tous. Je suis désolé. Rire. Ce message s'adresse à vous tous, pas à moi. Bien sûr, cela s'applique aussi à moi. Mais laissez-moi vous expliquer. Je connais un homme. Monsieur le ministre, je connais une femme qui se met très vite en colère. Nous devons tous faire attention, chacun d'entre nous. Si quelque chose ne va pas dès le début de la journée et que cela vous met en colère, gérez-le. N'attendez pas le coucher du soleil. Maintenant, je baisse même la barre, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi? Gérez cela immédiatement. C'est essentiellement ce que dit le verset, car la colère ne s'améliore pas avec la fatigue. Rire, elle s'intensifie lorsque nous sommes épuisés physiquement et mentalement. Vous devez vous en occuper rapidement avant de rentrer chez vous, car combien d'entre nous ont déjà vécu cette expérience où nous avons été en colère toute la journée au travail ou ailleurs, et où ce sont ceux qui sont à la maison qui en paient le prix? Nous devons donc nous en occuper. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Nous avons fait un bref détour par l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant de retour dans le Nouveau Testament. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez attentivement à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Oh là là, quel langage puissant! De puissants avertissements. Il ne s'adresse pas au monde, ni aux fausses versions du christianisme. De peur qu'une racine d'amertume ne pousse et ne vous trouble, et que par là, écoutez bien, plusieurs ne soient souillés. Oh! Voici un exemple qui illustre les effets de la colère, de la rage, de l'amertume ou du chagrin, que l'Épître aux Éphésiens ajoute plus loin, au verset 31, je crois. Avez-vous déjà laissé les ordures s'accumuler dans votre cuisine ou votre garage? Avez-vous déjà attendu un peu trop longtemps avant de les sortir? Je veux que ma femme réponde à cette question. Ça pue. Et cette puanteur, cette odeur, ne reste jamais confinée à la cuisine. Tous ceux qui franchissent la porte d'entrée la sentent. Ils veulent faire demi-tour et, petit rire, partir à cause de l'odeur. Mes frères, les gens qui nous entourent sont affectés lorsque nous ne nous débarrassons pas rapidement et régulièrement des choses dans notre vie. Si vous gérez rapidement votre colère tout au long de la journée, elle ne peut pas rester dans votre cœur. Salomon dit, encore une fois, que les gens stupides agissent ainsi. Stupides, car quelqu'un sera l'objet de notre colère, de notre malveillance, de nos propos grossiers ou blasphématoires, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le problème initial qui nous a mis en colère au départ. Homme, mari, vous devez gérer votre colère avant de quitter le travail. Et si nécessaire, sur le chemin du retour. Parlez à la personne, discutez. N'explosez pas de colère. Dites, je m'engage à surmonter la colère que je viens de ressentir. Trouvez des moyens d'y parvenir. Est-ce que cela va parfois être compliqué? Oui. Est-ce approprié de le faire tout le temps? Non. Et si ce n'est pas approprié de le faire ou si vous ne pouvez pas le faire de la bonne manière, alors vous devez vous parler à vous-même tout au long de la journée et sur le chemin du retour, puis en parler à Dieu. Parlez-vous à vous-même à ce sujet. Mettez-vous au défi. Ne vous tournez pas toujours immédiatement vers Dieu. Dieu vous a donné des instructions sur ce qu'il faut faire. Oui, il y a des moments où nous devons prier à ce sujet. Demandez-lui de vous aider, de vous guider. Encore une fois, parlez-vous à vous-même. Parlez-vous pour sortir de la colère, pas pour vous y enfoncer davantage. C'est un commandement pour l'homme nouveau. Je voulais juste ajouter cela. Ne perdez pas de temps à essayer d'analyser ou de raisonner pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous ressentez de la colère, pourquoi vous développez des idées qui s'alignent sur la malveillance, la mauvaise volonté envers quelqu'un, ou pourquoi vous êtes imprudent dans vos paroles, y compris les mensonges. Ne justifiez pas votre irritation. Traitez-la rapidement. Se débarrasser de quelque chose ne signifie pas l'ignorer. Se débarrasser de la colère ne signifie pas l'ignorer. Se convaincre de ne pas être en colère n'est pas une approche faible, c'est une approche forte, une approche puissante. C'est ce que font les nouvelles créatures en Christ. Se débarrasser de ces choses, c'est les affronter et les éliminer. Dieu ne vous demande pas d'affronter quelqu'un. Il vous dit d'abord de vous confronter vous-même. Revivre les offenses ou les erreurs des autres n'aide pas, car vous deviendrez doué pour exprimer les défauts des autres. Satan est plutôt doué pour cela. Je me demande combien de fois il a répété ses accusations contre Job avant de porter son affaire devant Dieu. Nous pouvons faire cela contre d'autres personnes. Et vous savez ce que c'est? C'est simplement nourrir la colère dans notre cœur, le ressentiment. Combien de fois nous entraînons-nous à nous plaindre de quelqu'un ou d'une autre personne? Et si vous le faites suffisamment souvent, vous devenez assez doué pour cela, et vous êtes impressionné par vous-même, alors vous allez vous plaindre de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Nous allons voir notre mari. Eh bien, c'est la personne à qui je demande conseil. Non, c'est la personne à qui vous allez vous plaindre des autres et exprimer votre colère envers eux. Nous allons voir nos femmes, nos maris, nos sœurs. Nous allons voir notre pasteur avant même d'aller voir la personne concernée. Cela ne fonctionne presque jamais, car cela enfreint Matthieu 18, 15. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Mais je vais vous demander de le noter et de revenir en arrière pour le lire lentement. Comment dit-on déjà? La pratique ne rend pas nécessairement parfait, mais elle rend permanent. Ne repassez pas les offenses en boucle, car vous allez devenir parfait dans l'art de vous mettre en colère. Éphésiens chapitre 4, c'est la première étape. Mettez-le de côté. Réglez le problème avant le coucher du soleil. Avez-vous déjà essayé d'utiliser des mots doux envers vous-même? Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Une réponse douce. Eh bien, Si vous vous mettez en colère, encore une fois, persuadez-vous de ne pas vous mettre en colère. Dites-vous des mots doux à propos de quelqu'un d'autre. Oui, une réponse douce à votre femme si elle est en colère, ou à votre mari, ou à un collègue de travail. Cela peut apaiser la colère. Et qu'en est-il de vous-même? Avez-vous déjà essayé d'appliquer cela à vous-même, en vous répondant avec douceur afin de ne pas être en colère contre vous-même ou contre quelqu'un d'autre? Éphésiens chapitre 4. C'est donc la première étape pour se dépouiller et marcher dans une vie nouvelle. Voici la deuxième étape, Éphésiens 4, verset 27, « Ne donnez pas prise au diable. » Tout cela est lié. Deuxième étape, « Ne laissez pas Satan s'immiscer. » Gardez-le hors de nos affaires. Le mot « place » signifie ici « opportunité », « prise » ou « espace ». Entretenir trop longtemps la colère, la rage, l'amertume ou le chagrin permet à Satan d'influencer votre nouvel homme. Satan ne crée rien de tout cela. Il rôde, attendant de les exploiter pour nous dévorer. Il veut dévorer l'homme nouveau. L'ancien homme est mort. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2. Partons de là. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, silence, verset 8, « Je vous exhorte à confirmer votre amour envers lui. » Paul parle ici de la réintégration du jeune homme qui a couché avec la femme de son père, qui s'est repenti et qui souhaite revenir. Eh bien, qui a besoin d'apprendre la leçon maintenant? Qui apprend la leçon maintenant? Je vous supplie de confirmer votre amour pour lui. Car c'est aussi dans ce but que je vous ai écrit, afin de connaître votre loyauté, pour savoir si vous êtes obéissant en tout. À qui vous pardonnez quelque chose, je pardonne aussi. Car si j'ai pardonné quelque chose, toute offense contre lui, l'apôtre Paul aurait pu parler de n'importe qui j'ai pardonné, c'est pour vous que je l'ai pardonné en la personne du Christ. Le nouvel homme est tenu de faire ces choses, de renoncer à ces choses. Il disait aux Corinthiens de ne pas infliger d'autres punitions. Il semble, ou du moins c'est ce qu'il semble, qu'il soit allé trop loin. Beaucoup, dit-il, l'ont fait au verset 6. Beaucoup l'ont fait, et il semble que même des dirigeants aient été impliqués. Là où va la tête, le corps a tendance à suivre. N'est-ce pas? Je peux vous dire qu'il nourrissait probablement du ressentiment à cause de l'embarras que ce jeune homme avait causé à la congrégation locale, aux Corinthiens. C'était des sentiments de ressentiment, mais qu'ont-il fait de ces sentiments de ressentiment une fois la punition infligée? Il semble qu'ils aient continué à nourrir ce ressentiment. Et voici ce que Paul, l'apôtre Paul, leur dit gentiment de faire, arrêtez. Vous devez cesser de punir cet homme. Et j'irai même plus loin. La raison pour laquelle ils ne pouvaient pas cesser de le punir, ou voulaient continuer à lui infliger des punitions, c'est parce qu'ils n'avaient pas réglé leur propre sentiment de ressentiment ou de colère envers cet individu. Verset 11. Afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous. Pourquoi? Pourquoi leur disait-il cela? Parce qu'il laissait à Satan la possibilité d'agir. Car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Ils couraient le risque que Satan prenne l'avantage sur eux. Le mot « avantage » signifie « tromper » ou « déjouer ». Lorsque nous permettons à notre ancien comportement de s'exprimer, lorsque nous ne renonçons pas à notre ancien comportement, Satan rencontre peu de résistance et peut nous déjouer. Il est dans la pièce. Et croyez-moi, il est rapide et agile. L'apôtre Jacques nous dit de résister au diable, et il fuira loin de vous. Mais comment résister au diable, monsieur Hook? Renoncer à la rancœur est un moyen pratique de chasser Satan. Renoncer à la colère. Renoncer à la fureur. Renoncer aux sentiments et aux comportements de l'ancien homme, C'est ainsi que nous nous opposons à cet être lubrique, intrigant, manipulateur, mensonger et malfaisant. Mettez de côté tous ces types de sentiments. Et l'apôtre Paul a dit, je le peux. Vous le pouvez aussi. Pourquoi? Je suis un homme nouveau en Christ, et vous êtes un homme nouveau en Christ. Et nous? Avons-nous tendance à nous accrocher aux choses plus longtemps que nous ne voulons l'admettre? Nous devons tous apprendre à lâcher prise plus rapidement, qu'il s'agisse de notre conjoint, converti ou non, de nos enfants, de nos collègues de travail. Mes frères, il est primordial que nous abandonnions ces sentiments qui divisent, car ils laissent de la place à Satan. Lorsque nous sommes unis, Satan n'a pas la possibilité de s'immiscer entre nous. Mais si nous nous séparons, même par des sentiments, cela donne à Satan la possibilité de s'immiscer entre nous. Ou votre mariage. Ou vos enfants. Ou votre équipe de travail. Qui? Moi, monsieur Hook. Je ne suis ni en colère ni amère. Je peux mettre mes sentiments de côté et pardonner. J'ai pardonné à cette personne. Vous voulez que j'oublie aussi? Eh bien, vous n'avez pas vraiment pardonné, n'est-ce pas? Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et encore une fois, je ne m'adresse pas seulement à votre nouvel homme, je m'adresse à mon propre nouvel homme. Ce verset révèle également ce qu'il faut faire lorsque nos sentiments prennent le dessus. C'est assez facile à comprendre, mais c'est encore plus clair dans Éphésiens 4. Passons à Éphésiens 4. Éphésiens 4. Voilà. Ces programmes d'auto-assistance ou ces programmes en 12 étapes. Laissez-moi vous donner un programme en une seule étape pour le nouvel homme, car l'ancien homme a besoin d'environ 50 étapes pour se réhabiliter, si tant est qu'il puisse se réhabiliter. Il ne se réhabilite ni ne se réforme jamais vraiment. Verset 28. Éphésiens 4 verset 28 que celui qui volait, préparez-vous, ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains le bien, oh, il y a là un indice pour une autre étape. Nous n'y sommes pas encore. En faisant de ses mains le bien, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que nul propos malséant ne sorte de votre bouche. Oh, fermez votre bouche. Arrêtez. Avant ce que vous allez dire, avant de dire ce que vous allez dire, ne le dites pas. Mais seulement ce qui est bon pour l'édification, oh, voilà un autre indice sur la direction que nous prenons. Afin que cela apporte la grâce à ceux qui l'entendent. Quoi? Je suis en colère. Je veux dire pourquoi je suis en colère et ce que cette personne a fait. Non, vous devez vous arrêter, car ce qui doit sortir de votre bouche en tant que nouvel homme en Christ doit édifier. Oh, je veux démolir. Je veux détruire. Non, nous sommes appelés à édifier et à construire, à apporter la grâce à ceux qui écoutent. Oh, juste les personnes à qui je me plains d'une autre personne, c'est cela? Non, la personne elle-même est également incluse. Lorsque nous ne parvenons pas à nous débarrasser de la convoitise, de l'orgueil, de la cupidité, du ressentiment, de l'amertume, de la colère ou de la fureur, et finalement du péché, la Bible dit, arrêtez. Cessez de mentir aussi vite, voire plus vite, que vous renoncez à la colère avant la fin de la journée. Cessez de voler Dieu. Cessez de voler ses dîmes, la première, la deuxième ou la troisième. Cessez de voler tout ce qui appartient à Dieu. Cessez immédiatement de voler tout ce que vous volez aux autres. Cessez de tricher. Cessez de forniquer ou de commettre l'adultère. Quand? Aujourd'hui, avant le coucher du soleil. Jetez tous les vêtements inappropriés qui ne rendent pas hommage à qui vous êtes en tant que nouvelle créature en Christ. Cessez les propos obscènes et corrompus. Cessez les propos insensés et les plaisanteries déplacées. Cessez toute forme de blasphème. Cessez d'utiliser des euphémismes qui prennent le nom de Dieu en main de manière détournée. Cessez de violer le sabbat. Cessez de menacer et de vous battre. Cessez votre ivrognerie. Cessez de médire. Cessez de chuchoter. Cessez de murmurer. Cessez de dire du mal. Cessez de colporter des ragots. Cessez de semer la discorde ou la division. Parents, cessez de provoquer vos enfants à la colère. Enfants, cessez de déshonorer vos parents. Quoi que vous ayez fait qui soit conforme à la conduite de l'ancien homme, cessez-le. Cessez-le avant que le soleil ne se couche ou avant qu'il ne se lève. Arrêtez vos pieds, arrêtez vos mains, y compris votre bouche et toute autre partie de votre corps, immédiatement. Et une fois que vous avez arrêté, souvenez-vous de la première étape, débarrassez-vous de ce qui alimente cela. Débarrassez-vous de la luxure et de l'orgueil. Arrêtez ces causes de convoitise. Débarrassez-vous de votre volonté propre et de votre satisfaction personnelle. Jetez toute affection excessive. Mettez de côté les imaginations, les mauvaises imaginations du cœur. Écartez la dureté de cœur, l'entêtement et la rébellion. Écartez l'envie, la jalousie, la colère, la haine, l'amertume, la fureur, et la liste est longue. Écartez votre amour de l'argent. Éliminez la vanité, la fierté, l'ingratitude, l'impatience et le mécontentement. Écartez tout cela. La deuxième étape est donc simple, chassez Satan et fermez-lui la porte. Ne laissez pas le diable prendre l'avantage. Pourquoi? Et c'est absolument essentiel. Une des raisons est certainement d'éviter les dommages que vous causez à vous-même et aux autres lorsque vous faites l'une de ces choses. Arrêtez. Arrêtez avant de le faire, car il est difficile de remettre le génie dans la bouteille une fois que vous avez agi, une fois que vous avez parlé. Il s'agit alors de limiter les dégâts. Parfois, vous vous êtes même forcé à agir et à adopter davantage le comportement de votre ancien moi, en vous justifiant, « Eh bien, je l'ai fait à cause de ceci. Je l'ai fait à cause de cela. Non, j'avais tort. Je n'aurais pas dû faire cela. J'aurais dû parler davantage avec grâce et compréhension, essayer de comprendre, édifier et unir. Car si vous ne suivez pas les étapes 1 et 2, ou 2 et 1, elles sont interchangeables, c'est là que cela devient incroyablement dangereux pour l'homme nouveau. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque vous ne vous débarrassez pas rapidement du mal ou du péché et que vous laissez Satan agir dans votre vie, si je laisse cela se produire dans ma vie, cela attriste l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'agit que dans l'esprit spirituel du nouvel homme, et non dans l'esprit charnel qui aime les voies de l'ancien homme. L'esprit charnel et l'Esprit de Dieu sont des ennemis jurés. L'esprit charnel n'est pas mort avec l'ancien moi. L'ancien moi est mort. Les souvenirs charnels de ce mode de vie persistent encore. La manière dont vous pouvez faciliter, et non entraver, l'œuvre de l'Esprit de Dieu est d'arrêter et d'exclure Satan. Car voici ce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il n'est pas entravé, aidera notre nouvel homme à faire, il l'aidera à franchir la troisième étape, la plus décisive. L'Esprit de Dieu vous aidera à barrer la porte et à placer derrière elle des objets inamovibles qui empêcheront Satan d'entrer. Colossiens chapitre 3. Ce sera notre dernier verset avant de conclure. Colossiens 3, et nous allons passer à la deuxième moitié du verset 9, où nous avons commencé, « Puisque vous avez dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et revêtu le nouvel homme, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. La troisième et dernière étape pour se dépouiller complètement consiste à se revêtir. La nature a horreur du vide. Nous devons immédiatement remplacer ce dont nous nous dépouillons. Je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque nous avons lu ces versets. Cessez de dire ce qui est mauvais, destructeur et nuisible à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'autre, et remplacez-le par des paroles de miséricorde, de bonté, d'humilité d'esprit, de douceur et de longanimité. Paul ne nous dit jamais de nous dépouiller sans nous dire aussi de nous revêtir. Je suis sûr qu'il parle d'après son expérience personnelle. Revenons à la colère. L'homme nouveau est capable de se mettre en colère. Nous l'avons déjà établi. Avant de répondre ou de parler à quelqu'un, ou avant d'arriver chez vous, parlez-vous à vous-même et, encore une fois, essayez d'appliquer Proverbe 15, une réponse douce apaise la colère. Ainsi, au lieu de paroles ou d'actions colériques, utilisez une réponse douce. Des paroles douces. Des actions douces. Les paroles blessantes attiseront la colère et attristeront également le Saint-Esprit. Réfléchissez, il est impossible que la colère occupe notre nouvel homme si nous l'avons déjà rempli de longanimité et si nous continuons à accumuler de la longanimité, encore plus de longanimité. C'est pourquoi nous demandons davantage de l'Esprit de Dieu. C'est l'un des fruits de l'Esprit. La Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Pourquoi ? Parce que toute notre marche dans la nouveauté de la vie consiste à nous dépouiller et à laisser de la place pour nous revêtir. Notre homme nouveau enlève constamment ses vieux vêtements et en revêt de nouveaux. Rappelez-vous, l'ancien homme est mort. La Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Pourquoi ? Parce qu'il vous remplit de la plénitude de Dieu. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté, de toute sagesse et de toute intelligence spirituelle. La Bible nous dit d'être remplis de joie. La Bible regorge de choses dont nous pouvons nous remplir. Vous ne pouvez pas remplir votre nouvel homme avec tout cela sans l'Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit ne peut agir sans entrave que si vous suivez les étapes 1 et 2, si vous vous débarrassez de vos sentiments et si vous n'agissez pas. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Fermez la porte. Si vous ne le faites pas, vous inhibez l'esprit si vous ne vous débarrassez pas de l'ancienne conduite de l'ancien homme. Si vous avez atteint la colère, débarrassez-vous-en. Et si vous avez fait quelque chose, excusez-vous et repentez-vous. Changez. Changez de vêtements. Abandonnez la colère et la rage, l'amertume et le blasphème, excusez-vous même de les avoir revêtus, et revêtez toutes ces choses dont nous venons de parler, la miséricorde, la bonté, l'humilité d'esprit, la douceur, la patience, et la liste pourrait s'allonger encore et encore. Remplacez votre colère par la douceur. Si vous en êtes au point de ressentir de la malveillance envers quelqu'un, de vouloir lui faire du mal, revêtez-vous de bonté. C'est assez intéressant de voir comment ces sentiments s'opposent les uns aux autres. Le pipeline. Si vous vous trouvez n'importe où le long du pipeline, nous pouvons l'arrêter et le remplacer, puis commencer à travailler à rebours. Méditez là-dessus. Réfléchissez-y. Si vous en êtes au point de parler de manière irrévérencieuse de Dieu, de son Église, de son gouvernement, arrêtez. Abandonnez l'orgueil et revêtez-vous d'humilité. Et enfin, si vous luttez contre un langage obscène ou corrompu, demandez à Dieu de vous aider à revêtir votre nouvel homme de miséricorde. Chaque fois que vous voulez vous débarrasser de quelque chose de votre nouvel homme, ne vous laissez pas nu. Cherchez dans les Écritures. Cherchez dans votre esprit. Cherchez en priant Dieu pour savoir ce que vous pouvez revêtir. Non, je lui ai pardonné. Mais ressentez-vous de la longanimité envers cette personne? Je ressens de la rancœur envers lui. Je l'ai ressenti. Je m'en excuse. Maintenant, avez-vous envie de faire quelque chose de bien pour cette personne? Ne vous contentez pas de mettre en pratique à moitié vos paroles de repentance ou de changement, mais mettez-les pleinement en pratique en vous revêtant. Et voici le fruit qui fleurit. Voici la fleur qui s'épanouit lorsque nous faisons tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, lorsque nous marchons véritablement dans une vie nouvelle. Terminons avec le verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si un homme nouveau, j'ajouterai, a un différend avec un autre, un homme nouveau ou quelqu'un en dehors de l'Église. Comme Christ vous a pardonné, faites de même. Et nous pourrions ajouter, soyez généreux, utilisez des paroles édifiantes et faites beaucoup de bonnes œuvres. Frères et sœurs, le christianisme n'est pas une gestion du comportement. Ce n'est pas une réhabilitation de soi. Ce n'est pas une réforme de l'ancien homme. Ce n'est pas non plus une amélioration progressive de ce que Dieu a déjà déclaré devoir mourir. Dieu n'a pas amélioré Abraham. Il n'a pas amélioré Jacob, Simon ou Saul. Il a travaillé avec Abraham. Il a travaillé avec Israël. Christ a travaillé avec Pierre. Et Dieu a travaillé avec Paul. Au baptême, vous avez renoncé à l'ancien homme que Dieu ne voulait pas développer et vous avez revêtu celui qu'il a créé en Christ, celui avec lequel il peut travailler. Réfléchissez-y alors que nous entrons à nouveau dans la période précédant la Pâque. Vous aurez un peu moins de frustration, un peu moins de confusion, un peu moins de déception, car vous savez que vous travaillez avec un homme nouveau capable de tout ce dont nous venons de parler aujourd'hui. Mes frères, lorsque vous tomberez, et vous tomberez, lorsque vous glisserez, et vous glisserez, ne soyez pas confus, frustrés ou découragés plus que nécessaire. Votre vieil homme est mort. Le mien aussi. Je trouve intéressant que Dieu ait dû dire à Josué, en quelque sorte en passant, que Moïse était mort à plusieurs reprises. Parfois, nous devons simplement prendre conscience que nous sommes morts, notre ancien moi, et que celui qui se bat aujourd'hui, c'est le nouvel homme. Le nouveau car. Le nouveau Freddy. Le nouveau Fred. La nouvelle Sally. Le nouveau, insérez votre nom. Vous apprenez à faire en sorte que le nouvel homme n'imite pas l'ancien. C'est votre travail. Alors, lorsque votre ancienne conduite refait surface, arrêtez-la rapidement. Ne la laissez pas perdurer après le coucher du soleil. Souvenez-vous de la date limite. Fermez la porte à Satan. Ne lui laissez pas de place. Et puis faites ce que l'Esprit vous a donné pour vous aider à faire, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, de pardon, de charité, et allez de l'avant, toujours de l'avant. Car lorsque nous faisons cela, mes frères, lorsque nous nous dépouillons et nous revêtons véritablement, nous distinguons l'homme nouveau de l'ancien, nous nous séparons du faux christianisme et nous donnons au monde une image réelle de ce qu'est le vrai christianisme. Nous nous distinguons du monde. Mes frères, ce n'est pas de la gestion du comportement, c'est marcher dans une vie nouvelle. Bonjour à tous. Bonjour en ce jour de sabbat. Vous savez, une grande partie du christianisme moderne a été réduite, si l'on en croit les différentes versions et confessions chrétiennes, à une simple gestion du comportement. On accorde très peu d'importance au véritable changement, à ce que nous devons cesser de faire. On accorde beaucoup d'attention à ce que la Bible nous dit de faire, selon eux, mais dans la plupart des cas, ils se trompent complètement. Et de cette seule incompréhension du christianisme réduite à la gestion du comportement découlent des versions entièrement fausses du christianisme. Ce sont des programmes d'auto-assistance créés par l'homme qui ressemblent davantage à une thérapie psychologique qu'à ce que nous connaissons comme étant le véritable évangile. Ces versions du faux christianisme visent à réhabiliter les gens, à réformer leur comportement et à améliorer lentement ce qui, en fin de compte, ne peut être réhabilité, réformé ou amélioré. Toute cette approche repose sur une hypothèse que Dieu n'a jamais demandé à aucun être humain de faire, que chacun d'entre nous, tout être humain, peut être réparé. Cela peut sembler choquant pour certains d'entre vous, mais la Bible ne fixe pas comme objectif aux chrétiens qui vivent le vrai christianisme de s'améliorer eux-mêmes. Certains pourraient immédiatement objecter dans leur esprit, peut-être les nouveaux venus ou les plus jeunes, mais ne devrions-nous pas grandir? Ne devrions-nous pas surmonter les difficultés de notre vie? Oui. Ma réponse est oui, absolument. Les Écritures commandent sans équivoque de grandir et de vaincre le péché. Mais avant d'en arriver là, nous devons nous poser une question fondamentalement beaucoup plus basique, une question que les gens se posent rarement. Je vais donc la poser aujourd'hui. Qui Dieu attend-il de grandir et de vaincre? Vous vous dites peut-être, une fois de plus, je ne comprends pas. Mais cela ne durera pas. Tant que nous n'aurons pas pleinement compris la réponse à cette question, je vous garantis que nous connaîtrons plus de confusion, plus de frustration et encore plus de découragement que nécessaire si, et certainement quand, nous commettrons une erreur ou un péché. Cela s'applique à tout le monde, que vous souhaitiez vous faire baptiser, que vous soyez nouvellement baptisé ou que vous soyez baptisé depuis des décennies. Nous voulons éviter autant que possible la frustration, la confusion inutile, la tristesse et le découragement, car nous commettrons des erreurs, nous pouvons tomber et nous tomberons. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment éviter les niveaux inutiles de découragement et de frustration et nous mettre au travail lorsqu'il s'agit de vivre véritablement le christianisme. Par exemple, Dieu n'a pas amélioré Jacob. Il est intéressant de noter qu'il lui a donné un nouveau nom, Israël. Nous pourrions nous demander pourquoi. Dieu ne cherchait pas à obtenir une meilleure version d'Abraham, mais il lui a donné un nouveau nom, Abraham. Qu'est-ce que cela pouvait symboliser? Lorsque Christ a rencontré Simon pour la première fois, il ne cherchait pas à obtenir une version améliorée de ce pécheur de Galilée. Il lui a donné le nom de Pierre. Et regardez Saul. Dieu n'essayait pas d'améliorer ou d'obtenir une meilleure version de Saul. Il n'y a peut-être qu'une lettre de différence, un S et un P, Saul et Paul, mais ces deux individus étaient à des années-lumière l'un de l'autre. Aujourd'hui, le monde aimerait réduire cela à un simple symbolisme, ou comme je l'ai dit plus tôt, à une gestion du comportement, en essayant de dire « Dieu essayait de faire de meilleures versions d'eux ». Mais, mes frères, c'est plus qu'un symbolisme pour nous. Le monde ne comprend pas ou refuse d'appliquer les leçons qui peuvent être tirées de ce type de symbolisme. Mes frères, l'apôtre Paul a aidé l'Église à comprendre exactement ce dont je parle. Et cela nous amène au message d'aujourd'hui, au sujet. Passons au chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Nous devons vraiment faire une pause. Si nous avons appris quelque chose dans la véritable Église de Dieu, c'est que nous devons vraiment faire une pause et lire la parole de Dieu lentement. Plongeons-nous dans les définitions, le grec et l'hébreu, afin de tirer le meilleur parti de ce que Dieu essaie de nous communiquer. Et ce que nous allons lire ne fait pas exception, car il s'agit d'une compréhension essentielle à toute mon introduction. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme avec ses œuvres. Encore une fois, nous devons faire une pause. Le monde n'a aucune idée de ce que Dieu a inspiré à l'apôtre Paul de révéler ici. Cette expression, « puisque vous avez dépouillé », est en fait un mot grec, « apekdiomé », « apekdiomé ». Et elle révèle trois choses essentielles. Premièrement, cela signifie que l'action est terminée. Ce mot est le participe moyen aoriste. Cela signifie que l'action à laquelle Paul fait référence a été accomplie à un moment donné dans le passé. Et apparemment, il fallait le rappeler aux Colossiens. Pourquoi donc? L'action est donc terminée. Deuxièmement, ils l'ont fait eux-mêmes. Le moyen signifie réflexif, faire quelque chose à soi-même. Paul a apparemment dû leur rappeler cela aussi. Quoi qu'ils aient fait, ils l'ont fait eux-mêmes. Ou quoi qu'il se soit passé, ils l'ont fait eux-mêmes, c'est ce qu'il essayait de communiquer en utilisant ce mot particulier. Et troisièmement, ce mot ou cette expression signifie se défaire entièrement, se débarrasser complètement de quelque chose ou de quelqu'un. L'apôtre Paul me rappelle donc que je me suis débarrassé de l'ancien car il y a plus de 10 ans. Ce n'est pas ma femme qui l'a fait. En fait, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Ma femme ne m'a pas changé ou remplacé par une meilleure version de car, même si, à l'époque, si vous lui aviez posé la question, elle aurait peut-être répondu, j'aurais aimé avoir cette option. Mais elle ne l'a pas fait. Et ce qui est choquant dans ce mot, c'est que Dieu ne l'a pas fait non plus. C'est moi qui l'ai fait. Et nous allons approfondir cette question. Si nous ne comprenons pas cette phrase, nous pouvons, comme je l'ai dit plus tôt, lutter plus que nécessaire avec quelque chose d'aussi simple que le mensonge. Car le contexte était « ne vous mentez pas les uns aux autres ». Examinons plus en profondeur ce que cette phrase signifie réellement, car à mon avis, c'est juste une façon douce de décrire ce qui vous est réellement arrivé si vous êtes baptisé, ou ce qui m'est arrivé lorsque j'ai été baptisé il y a plus de 10 ans. Et c'est une très belle façon de dire, voyant que vous avez renoncé. Allons au chapitre 6 de l'Épître aux Romains et voyons ce qui s'est réellement passé. Silence, jeunes gens, futurs membres qui vous préparez au baptême, écoutez très attentivement ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains, comment il leur a expliqué, de manière légèrement différente de ce qu'il a dit aux Colossiens. Romains, chapitre 6, verset 3. C'est une question. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés dans sa mort? Eh bien, c'est assez fort, si vous voulez, on pourrait dire au moins symbolique. Verset 4. Nous allons le parcourir très rapidement. C'est pourquoi, voilà, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Verset 6. Sachant cela, sachant les deux choses que je viens de vous dire, que notre vieil homme est crucifié avec lui. Quoi? Afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Maintenant, nous pouvons tous comprendre, et je suis sûr qu'il existe de nombreuses versions du christianisme qui peuvent apprécier les différences que les Écritures peuvent apporter dans la façon dont une personne pense ou agit. Mais, mes frères, cet événement et cette action n'étaient pas simplement symboliques, sinon Paul ne l'aurait pas dit ainsi. Ne pensez pas que quiconque puisse connaître un changement durable sans que le premier événement, le plus important, ne se produise dans la vie d'un être humain, la mort de notre moi actuel. Car la crucifixion, si vous y réfléchissez bien, n'est pas un processus, c'est un événement brutal. Elle était destinée à détruire complètement celui qui était pendu au poteau, à l'arbre. La crucifixion n'était pas destinée à réformer quelqu'un, elle était destinée à le tuer. Et nous n'enterrons pas les vivants, réfléchissez-y logiquement. Les baptêmes sont destinés à l'ancien moi, si l'on repense à Colossiens 3, qui a accepté le jugement de Dieu sur sa vie et la sentence de mort sur sa vie et qui s'est volontairement rendu à son exécution. Et cette exécution, comme il est dit ici, c'est que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Jacob devait donc mourir pour accomplir sa vocation d'Israël. Prince avec Dieu, c'est ce que cela signifie. Simon a dû mourir pour que Pierre puisse donner sa vie à la cause de l'Évangile. Saul a dû mourir pour que Paul puisse devenir apôtre des gentils. Il en allait de même pour les Colossiens, comme pour les Romains, et comme pour vous et moi. Et ceux qui refusent de se dépouiller entièrement de l'ancien homme finiront par être détruits et mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Galates chapitre 6, continuons. Nous allons consacrer la majeure partie de ce message à passer d'une lettre écrite par Paul à une église à une autre. Et nous ferons des allers-retours. Galates chapitre 6. Paul n'a pas seulement révélé cette vérité aux Colossiens ou aux Romains. Ce n'était pas une connaissance qui leur était exclusivement réservée. Il a dit aux Galates ce qui suit. Verset 14. Loin de moi la pensée de me glorifier, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ maintenant, ralentissons un peu. Par lui, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Arrêtons-nous là un instant. Si l'apôtre Paul avait simplement ajouté « suis crucifié » après le mot « moi », cela aurait été encore plus clair. Mais son sens est sans équivoque. Lui aussi a été crucifié. Je suis crucifié pour le monde. Mort à lui, mort au péché. L'ancien Saul était inutile à Dieu. Et je le répète, nous l'étions aussi. Dieu n'avait absolument aucun usage pour l'ancien Car, pour l'ancien Frody, ou pour l'ancien Fred, ou Sally. Insérez votre propre nom. Dieu n'avait aucun usage pour vous. Ce que nous devons donc continuellement mettre à mort dans nos vies, mes frères, c'est toute idée que notre ancien moi est toujours vivant. Nos anciennes façons de nous comporter. Penser que nous luttons contre notre ancien moi et peut-être contre notre façon d'agir, que ce soit comme notre père ou comme notre mère, que nous avons continué à porter tous ces traits dans l'eau baptismale et à en sortir. Ce qui vit, c'est le souvenir de notre ancien moi. Le souvenir de la façon dont nous avons grandi et dont nous avons appris à penser et à agir. Mes frères, cela m'aide dans mes luttes à me rappeler que mon combat n'est pas contre un ancien car qui se lève parfois de sa tombe aquatique. Non. Alors, qui Dieu attend-il pour grandir et vaincre? Telle est la question. Car j'ai dit sans équivoque que les Écritures nous commandent de grandir et de vaincre. Mais qui grandit et vainc réellement? Continuez à lire ici. Verset 15. Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement d'être une nouvelle créature. Que la paix et la miséricorde soient sur tous ceux qui marchent selon cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Bien sûr, nous sommes l'Israël spirituel. Dieu attend de ces nouvelles créatures qu'elles grandissent et triomphent. Dieu nous a créés pour marcher en accord avec ce que nous sommes, et non avec ce que nous étions autrefois. Être juif ou païen ne procure aucun avantage à personne, mes frères. Être baptiste, catholique, méthodiste, bouddhiste, hindou ou musulman non plus. Réfléchissez-y, juste une petite parenthèse ici. Remarquez que la paix et la miséricorde sont promises à quiconque marche conformément à cette règle. Ainsi, la paix et la miséricorde de Dieu, frère, reposent sur les nouvelles créatures, et non sur les anciennes. Si vous essayez de ressentir la paix et la miséricorde de votre ancien moi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Seuls ceux qui marchent selon cette règle bénéficieront de la paix et de la miséricorde. C'est pourquoi personne dans le monde ne peut véritablement connaître la paix et la miséricorde de Dieu, car personne n'est une nouvelle création. Colossiens chapitre 3. Revenons à notre point de départ. Oui, afin de ne pas nous éloigner trop des Écritures que nous allons étudier aujourd'hui. Reprenons à la deuxième moitié du verset 9, puisque vous avez dépouillé le vieil homme et ses œuvres. Rappelez-vous, participe moyenne aoriste. Verset 10, et vous avez revêtu le nouvel homme, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Dieu a créé cette nouvelle création, cette nouvelle créature, où il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, Christ est tout et en tous. Mes frères, nous devons nous rappeler que le vrai christianisme n'est pas une seconde chance pour améliorer notre ancien moi. C'est la fausse version du monde. Quiconque pense pouvoir changer avant que son ancien moi ne soit crucifié et enseveli lors du baptême passe à côté du changement le plus important. La repentance signifie le changement. Et tout comme nous l'avons lu il y a quelques instants, l'expression « revêtir » est également au participe aoriste moyen. Cela signifie que l'action est terminée. Elle a déjà eu lieu. Elle est réflexive. Nous l'avons faite nous-mêmes. Ni ma femme, ni Dieu, ni aucun ministre ne m'ont débarrassé de mon ancien moi. Ils ne m'ont pas non plus revêtu ou paré, c'est ce que signifie ce mot, de mon nouvel homme. Je pense au baptême lorsque certaines femmes sortent d'ici et que les hommes sortent de la baignoire. Une serviette les attend. Et en réfléchissant à cette partie de l'Écriture, je me suis dit que cela pouvait certainement être un symbole de notre revêtement, de notre parementation de l'homme nouveau que Dieu nous a donné, juste avant que les mains ne soient posées. Silence. Dieu a créé mon nouvel homme en Christ. Je l'ai revêtu lorsque j'ai baissé la tête et permis que l'on m'impose les mains il y a plus de 10 ans. Je regarde les nouveaux hommes devant moi. Ce n'est pas non plus simplement symbolique. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il nous est dit de voir chacun comme nouveau. Je pense que vous savez où cela nous mène en termes de dépassement des difficultés, même entre nous. Nos familles nous voient toujours comme les anciens. Elles pensent que nous sommes toujours l'ancien Car, l'ancienne Frody, l'ancienne Sally et l'ancien Fred. Mais lorsque nous nous regardons les uns les autres, nous savons que nous sommes un nouveau Car, un nouveau Frody, une nouvelle Sally, un nouveau Fred. Insérez votre nom ici. Et en fait, insérez le nom de la personne avec laquelle vous ne vous entendez peut-être pas actuellement à l'église. Silence, pourquoi ? Pourquoi Dieu prendrait-il des mesures aussi extrêmes pour communiquer ses vérités par l'intermédiaire de l'apôtre Paul ? Parce que Dieu n'accepterait qu'une nouvelle créature en Christ, qu'il serait prêt à développer et à aider à grandir. Galates, chapitre 3. Je pense que nous y sommes déjà allés une fois. Verset 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ouvrez votre Bible à ce passage. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Oh là là, cela semble répétitif, un thème récurrent dans le Nouveau Testament. Ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, selon la promesse. Les frères, individuellement, sont devenus des hommes nouveaux avec une nouvelle identité. Et ce n'est pas difficile à comprendre. C'est parfois difficile à retenir lorsque nous traversons des moments difficiles, ou lorsque nous pensons que notre ancien moi est revenu de manière remarquable et miraculeuse d'entre les morts. Cela peut être extrêmement frustrant. Ce n'est pas difficile à comprendre. Il est difficile de se rappeler que je suis en regardant un homme nouveau dans le miroir, que je regarde des hommes et des femmes nouveaux devant moi, quelle que soit la situation. Parfois, nous devons simplement nous arrêter et nous en souvenir. Dieu, en tant que Père, a toujours voulu des enfants de foi, de justice et de sainteté, comme Abraham, Israël, Pierre et Paul. Encore une fois, pour revenir à mon argument précédent, Dieu ne cherchait pas des versions améliorées d'Abraham, Jacob, Simon ou Saul. Il ne cherchait pas non plus, et ne cherchera jamais, des versions améliorées de nos anciens moi, de nos anciens moi. Vous m'avez devancé. Passons au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens et lisons ce que j'ai mentionné il y a un instant. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, et lisons ce que j'ai mentionné il y a un instant. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. Silence, verset 17. Passons directement à l'idée qui s'y trouve. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères, ce ne sont pas de simples mots symboliques sur des pages. Sinon, nous ne serions qu'une version parmi tant d'autres de gestion du comportement que les religions du monde essaient d'offrir aux gens. Cela doit être vrai. Paul le répète aux Corinthiens. Encore une fois, une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pas certaines choses, pas une partie des choses. Tout ce qui est ancien a disparu. Même les compétences et les talents que j'avais autrefois ont disparu. Je m'en souviens. Mais ces compétences et ces talents entre les mains de Dieu en tant que nouvelle créature, animée par l'Esprit de Dieu, guidée par sa parole, c'est autre chose. Une partie de la définition de disparu signifie périr ou négliger. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que les choses anciennes, leur ancien moi, leurs attitudes, leur façon de penser et d'agir, ont toutes péri. Nous avons récemment entendu parler de l'importance de ne pas oublier et de se souvenir de Dieu. Il est également crucial que nous n'oublions pas et que nous nous souvenions de ces choses dont nous parlons. J'ai mentionné plus tôt dans Galates 6 le fait de marcher. Ceux qui marchent selon cette règle, tout cela nous conduit à la raison la plus importante pour laquelle Dieu nous a donné une nouvelle vie, un nouveau moi. Revenons au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. J'ai sauté une partie du verset 4. Je vous ai pressé parce que ce n'était pas le bon moment pour révéler ce que je voulais révéler maintenant, la raison pour laquelle Dieu nous a donné une nouvelle vie. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Mes frères, Dieu nous a créés chacun en Christ pour marcher dans une vie nouvelle. Le contraire serait de marcher dans l'ancienne vie. Pourquoi Paul nous dit-il cela? Comme je l'ai déjà dit, les souvenirs et les habitudes de notre ancien moi persistent. Et cela peut influencer notre nouveau moi. C'est le danger auquel nous sommes confrontés. Nous ne sommes pas confrontés à notre ancien moi, mais aux souvenirs persistants, à notre façon de penser, à notre façon d'agir, à nos attitudes passées. Nous pouvons nous souvenir de tout cela, et notre nouvelle personnalité peut être inutilement influencée par ces souvenirs. La plupart d'entre vous ont déjà entendu le dicton « On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux singe ». En voici un autre, encore meilleur. On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un chien mort. Lorsque nous tombons, que nous faisons des erreurs ou que nous péchons, ce n'est pas notre ancien moi qui est en cause, mais notre nouveau moi. Cependant, à cause de la convoitise et de l'orgueil, qui sont en quelque sorte un thème récurrent chez moi depuis juillet, en coupant les sources d'alimentation du péché, notre nouveau moi est incité à apprendre de vieux tours. Rappelez-vous, nous ne combattons pas notre vieil homme qui agit comme notre père ou notre mère. Il est mort. Elle est morte. Nous luttons pour ne pas agir, penser ou avoir les mêmes attitudes que lui. Voyons donc ce qu'implique le fait de marcher dans une vie nouvelle. Sachant qu'il fallait d'abord se dépouiller du vieil homme et revêtir le nouveau, ce qui est accompli au moment du baptême. Éphésiens chapitre 4. Voyons maintenant, nous sommes maintenant prêts à apprendre comment marcher dans une vie nouvelle. Car le seul qui puisse marcher dans une vie nouvelle, c'est notre nouvel homme, nos nouveaux hommes. Éphésiens chapitre 4. Laissez-moi vous rattraper. Silence, Éphésiens 4, verset 20. Mais vous n'avez pas appris ainsi Christ, si toutefois vous l'avez entendu et avez été enseigné par lui, selon la vérité qui est en Jésus, que vous vous dépouillez, verset 22, que vous vous dépouillez, c'est un temps différent, ce n'est pas le participe moyen aoriste, que vous vous dépouillez de votre ancienne manière de vivre ou de comportement, c'est ce que signifie ce mot, de l'ancien homme, qui est corrompu par les convoitises trompeuses. Ainsi, marcher dans une vie nouvelle, frère, exige d'abord que nous nous débarrassions de toute conduite antérieure. Cela s'applique à tout comportement pécheresse avec lequel nous pouvons être aux prises, maintenant ou dans le passé, ou peut-être même dans le futur. Nous approchons rapidement de la saison précédant la Pâque. C'est le moment de l'année où nous nous concentrons plus profondément sur l'examen de conscience, non pas que nous ne devrions pas le faire continuellement tout au long de l'année, mais c'est la saison précédant la Pâque. Il est important de comprendre que nous ne diagnostiquons pas un cadavre. Nous connaissons la cause du décès. Ce n'était pas une mort naturelle, c'était une crucifixion. Vous souvenez-vous de la question posée au début ? Qui Dieu attend-il de grandir et de vaincre ? Vous souvenez-vous de ma réponse précédente ? Eh bien, répétons-la. Verset 23, « Et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, ici même, en continuant ce que nous étions en train de lire, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. » Dieu ne développe pas l'ancien homme. Il développe le nouvel homme. Dieu veut que l'homme nouveau grandisse et triomphe dans la justice et la véritable sainteté. Nous l'examinons donc pendant la période précédant la Pâque pour voir s'il se comporte comme l'ancien. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'homme nouveau peut être incité à se conformer au monde, tout comme l'était l'ancien. Je le répète, l'homme nouveau peut être incité à se conformer aux voies du monde, tout comme l'étaient nos anciens moi. Et lorsque cette pression se fait sentir, et elle se fait sentir, vous le savez tous, jeunes gens, membres potentiels, même ceux qui fréquentent l'Église depuis des décennies, vous comprenez les pressions qui s'exercent lorsque l'on vit dans ce monde. Nous devons nous dépouiller et permettre à Dieu de renouveler notre intelligence, ce qui nous aide à vivre selon la justice et la véritable sainteté. Ainsi, Marcher dans une vie nouvelle s'applique à tous les domaines dans lesquels nous pouvons rencontrer des difficultés et que nous pouvons identifier pendant la période précédant la Pâque. L'apôtre Paul ne parle pas en termes généraux de cette question, de ce sujet. Il est très précis lorsqu'il s'agit de revêtir et de se dépouiller, c'est-à-dire de marcher dans une vie nouvelle, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Revenons en arrière. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Verset 8. Mais maintenant, vous vous dépouillez aussi de tout cela. Nous savons donc que nous avons affaire à de nouvelles créatures. Paul n'est pas confus. Il sait qu'il s'adresse aux nouveaux hommes qui ont été créés par Dieu et qui ont été revêtus par ces individus eux-mêmes. Dépouillez-vous de tout cela, colère, irritation, malice, blasphème, paroles obscènes qui sortent de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Nous sommes revenus à notre point de départ. L'apôtre Paul nous commande de nous dépouiller de tout cela, non pas de le gérer, non pas de le justifier, et certainement pas de le répéter. Et, encore une fois, il ne raisonne pas avec notre ancien moi qui tolérerait ou essaierait d'éliminer progressivement ou de justifier ou d'expliquer pourquoi nous faisons ces choses ou ressentons ces choses. Il s'adresse au nouvel homme. Voilà, mes amis, ce qu'est la vie chrétienne 101. Oh, et c'est aussi la vie chrétienne 202, 303, 404, 505, et si vous êtes dans l'Église depuis 50 ans, 5005. Quel que soit le nombre d'années passées dans l'Église, c'est juste plus ou moins avancé. Nous continuons à rejeter les choses que notre nouvel homme commence à assumer. Il comprenait aussi le processus ici. Lisez-le très attentivement. La colère refoulée devient la fureur. La fureur engendre la malveillance, et la malveillance s'exprime par la parole et les actes. La mauvaise volonté envers quelqu'un, le désir ou la volonté de faire du mal à quelqu'un. La colère fait référence à de forts sentiments d'agacement. Maintenant, qui n'a jamais éprouvé de forts sentiments d'agacement? Même les nouvelles créatures en Christ peuvent éprouver de forts sentiments d'agacement. Il ne dit pas que c'est un problème. Cela peut aussi signifier des sentiments d'hostilité. Considérez cela comme l'irritation que vous éprouvez envers quelqu'un à cause d'offenses que vous ne parvenez pas à oublier. Quelqu'un vous offense. Vous vous mettez en colère. La colère couve. Et si elle couve assez longtemps, la fureur finira par éclater. Elle doit trouver un exutoire. La fureur désigne une colère explosive. Et comme pour la colère, on peut dire la même chose de la fureur. Pourquoi développerions-nous de la malveillance, de la mauvaise volonté ou des intentions malveillantes envers quelqu'un, voire envers Dieu? Détruire l'œuvre de Dieu, essayer ou penser que vous pouvez le faire, et même élaborer des plans pour y parvenir. Ce n'est pas comme si cela ne pouvait pas arriver. Ce n'est pas comme si nous ne l'avions jamais vu. La colère s'est transformée en fureur, mes frères, et la fureur s'est transformée en malveillance. Pourquoi blasphémer Dieu? Pourquoi utiliser un langage obscène? Pourquoi mentir à propos de quelqu'un, murmurer contre lui, colporter des ragots à son sujet ou à propos de quelqu'un d'autre, si nous ne ressentons pas une certaine malveillance? Alors, comment nous en débarrasser? Eh bien, je n'ai pas de tableau de comportement. Je ne peux pas vous en montrer, et je ne le ferai pas. Je n'ai pas de techniques émotionnelles à vous enseigner. Je n'ai pas de conseils du genre « compter jusqu'à 10 ». Je n'ai rien de tout cela à vous offrir. Je vais simplement laisser l'apôtre Paul vous expliquer comment vous débarrasser efficacement de ces choses, et ce n'est pas compliqué. Il suffit de quelques étapes. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À la fin de ce message, certains diront peut-être, ouf, je suis épuisé d'avoir parcouru la Bible d'un bout à l'autre. Non, nous ne pouvons pas dire cela. Nous restons ici, dans ces lettres. Nous pourrons peut-être passer à autre chose bientôt. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Le voici. Vous vous souvenez du pipeline? Colère, rage, malice, blasphème, propos obscènes sortant de votre bouche, mensonges les uns envers les autres. Voici ce que dit Paul. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voici une réflexion pour éviter de pécher à cause d'une émotion que nous pourrions ressentir, car nous ressentons tous des émotions, ne la laissez pas s'attarder. Arrêtez-les dès que possible. La rapidité est importante dans ce domaine, mon frère. À tel point que les Écritures nous donnent un délai. Petit rire, oh, j'ai toute ma vie pour me réhabiliter. J'ai toute ma vie pour surmonter cette offense. J'ai toute ma vie de chrétien pour surmonter la colère que je ressens envers un tel. HMM, voyons voir. Le coucher du soleil. Quoi que vous ressentiez en ce moment envers qui que ce soit, vous avez jusqu'au coucher du soleil. Silence, je me demande combien ont enfreint la limite de vitesse minimale dans leur vie. Vous avez déjà vu cela? Vitesse minimale 45. J'ai toujours trouvé cela hilarant. Étant un jeune homme je n'allais jamais respecter la vitesse minimale. Mon souci était de dépasser la vitesse maximale. Mais quand il s'agit des sentiments chrétiens, nous pouvons toujours vouloir nous rabattre sur la voie de droite. Peut-être que certains d'entre nous sont tellement ennuyeux qu'ils se placent en plein milieu, ou même quand nous voulons vraiment être ennuyeux envers les autres et que nous ne voulons pas dépasser nos sentiments, nous nous mettons sur la voie de dépassement et roulons à 35 dans une zone limitée à 65. Mes frères, nous pouvons faire cela en tant que chrétiens. Cela peut sembler humoristique, mais en réalité, ce n'est pas drôle. Si nous ne le faisons pas immédiatement, nous devons être assez rapides pour battre le coucher du soleil. Silence, maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Un peu effronté, comme on dirait en Angleterre. Eh bien, que se passe-t-il si je me mets en colère contre quelqu'un après le coucher du soleil? Je vais vous donner jusqu'au lever du soleil. Ou je suis prêt à conclure un accord avec vous. Puis-je avoir au moins jusqu'au prochain coucher du soleil? Ah, d'accord, je laisserai votre conscience vous répondre. Discutez-en. Priez à ce sujet. Vous êtes pressé par le temps. Soyez ouvert sur ce que vous essayez d'accomplir avec vous-même. Dieu ou la personne envers laquelle vous êtes en colère. Si vous êtes en colère contre Dieu, soyez ouvert avec lui. Discutez-en. Dites-vous à vous-même, dites à Dieu, dites à la personne envers laquelle vous éprouvez ces sentiments, que vous êtes déterminé et que vous vous efforcez d'obéir à ce verset. Je veux surmonter cela avant le coucher du soleil. Cela peut sembler étrange. Vous n'utiliseriez peut-être pas ce genre de langage, mais même les gens dans le monde disent, « Eh bien, je ne veux pas aller me coucher ce soir tant que cette question n'est pas réglée entre nous, chérie, chérie, comme toujours utile. » Même pour les personnes non converties, cela s'applique. C'est notre nouvel homme. Nous avons une obligation. Cela ne s'applique pas nécessairement uniquement entre frères. Bien sûr que si, mais dans tous les domaines de la vie. Tous les péchés mentionnés dans Colossiens 3 partagent un danger commun, ils grandissent lorsqu'ils ne sont pas contrôlés. Choisissez n'importe quel péché. Choisissez un péché. Choisissez une carte, n'importe quelle carte. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre méchanceté. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre blasphème. Ne laissez pas le soleil se coucher sur vos propos obscènes. Ne laissez pas le soleil se coucher sur vos mensonges. C'est un seuil bas, si je puis m'exprimer ainsi. Ce n'est pas un objectif élevé qui vous laisse beaucoup de marge de manœuvre. C'est avant le coucher du soleil. C'est un seuil bas. Vous devez le franchir. Vous devez respecter la date limite. Ecclésiaste, chapitre 7. Cela vous aidera un peu. Mon intention n'est pas de passer en revue chaque péché, mais de vous donner les bases pour simplement remettre à plus tard. Ecclésiaste, chapitre 7. Continuons. Au verset 9, ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. J'aime toujours pouvoir utiliser le mot insensé de manière juste. Il est insensé de se mettre en colère précipitamment, car vous savez quoi? Ceux qui se mettent en colère précipitamment la laissent généralement reposer dans leur sein. Et Salomon dit que ce n'est pas sage, ou pour le dire clairement, que c'est insensé. Je peux le dire, en particulier lors d'une mauvaise journée où je commence à me mettre en colère plus rapidement. Avez-vous déjà vécu une de ces journées? Votre patience s'amenuise. La moindre petite chose vous met en colère. Attendez une seconde. Je ne parle pas de moi. Je parle de vous tous. Je suis désolé. Rire. Ce message s'adresse à vous tous, pas à moi. Bien sûr, cela s'applique aussi à moi. Mais laissez-moi vous expliquer. Je connais un homme. Monsieur le ministre, je connais une femme qui se met très vite en colère. Nous devons tous faire attention, chacun d'entre nous. Si quelque chose ne va pas dès le début de la journée et que cela vous met en colère, gérez-le. N'attendez pas le coucher du soleil. Maintenant, je baisse même la barre, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi? Gérez cela immédiatement. C'est essentiellement ce que dit le verset, car la colère ne s'améliore pas avec la fatigue. Rire, elle s'intensifie lorsque nous sommes épuisés physiquement et mentalement. Vous devez vous en occuper rapidement avant de rentrer chez vous, car combien d'entre nous ont déjà vécu cette expérience où nous avons été en colère toute la journée au travail ou ailleurs, et où ce sont ceux qui sont à la maison qui en paient le prix? Nous devons donc nous en occuper. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Nous avons fait un bref détour par l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant de retour dans le Nouveau Testament. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez attentivement à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Oh là là, quel langage puissant! De puissants avertissements. Il ne s'adresse pas au monde, ni aux fausses versions du christianisme. De peur qu'une racine d'amertume ne pousse et ne vous trouble, et que par là, écoutez bien, plusieurs ne soient souillés. Oh! Voici un exemple qui illustre les effets de la colère, de la rage, de l'amertume ou du chagrin, que l'Épître aux Éphésiens ajoute plus loin, au verset 31, je crois. Avez-vous déjà laissé les ordures s'accumuler dans votre cuisine ou votre garage? Avez-vous déjà attendu un peu trop longtemps avant de les sortir? Je veux que ma femme réponde à cette question. Ça pue. Et cette puanteur, cette odeur, ne reste jamais confinée à la cuisine. Tous ceux qui franchissent la porte d'entrée la sentent. Ils veulent faire demi-tour et, petit rire, partir à cause de l'odeur. Mes frères, les gens qui nous entourent sont affectés lorsque nous ne nous débarrassons pas rapidement et régulièrement des choses dans notre vie. Si vous gérez rapidement votre colère tout au long de la journée, elle ne peut pas rester dans votre cœur. Salomon dit, encore une fois, que les gens stupides agissent ainsi. Stupides, car quelqu'un sera l'objet de notre colère, de notre malveillance, de nos propos grossiers ou blasphématoires, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le problème initial qui nous a mis en colère au départ. Homme, mari, vous devez gérer votre colère avant de quitter le travail. Et si nécessaire, sur le chemin du retour. Parlez à la personne, discutez. N'explosez pas de colère. Dites, je m'engage à surmonter la colère que je viens de ressentir. Trouvez des moyens d'y parvenir. Est-ce que cela va parfois être compliqué? Oui. Est-ce approprié de le faire tout le temps? Non. Et si ce n'est pas approprié de le faire ou si vous ne pouvez pas le faire de la bonne manière, alors vous devez vous parler à vous-même tout au long de la journée et sur le chemin du retour, puis en parler à Dieu. Parlez-vous à vous-même à ce sujet. Mettez-vous au défi. Ne vous tournez pas toujours immédiatement vers Dieu. Dieu vous a donné des instructions sur ce qu'il faut faire. Oui, il y a des moments où nous devons prier à ce sujet. Demandez-lui de vous aider, de vous guider. Encore une fois, parlez-vous à vous-même. Parlez-vous pour sortir de la colère, pas pour vous y enfoncer davantage. C'est un commandement pour l'homme nouveau. Je voulais juste ajouter cela. Ne perdez pas de temps à essayer d'analyser ou de raisonner pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous ressentez de la colère, pourquoi vous développez des idées qui s'alignent sur la malveillance, la mauvaise volonté envers quelqu'un, ou pourquoi vous êtes imprudent dans vos paroles, y compris les mensonges. Ne justifiez pas votre irritation. Traitez-la rapidement. Se débarrasser de quelque chose ne signifie pas l'ignorer. Se débarrasser de la colère ne signifie pas l'ignorer. Se convaincre de ne pas être en colère n'est pas une approche faible, c'est une approche forte, une approche puissante. C'est ce que font les nouvelles créatures en Christ. Se débarrasser de ces choses, c'est les affronter et les éliminer. Dieu ne vous demande pas d'affronter quelqu'un, il vous dit d'abord de vous confronter vous-même. Revivre les offenses ou les erreurs des autres n'aide pas, car vous deviendrez doué pour exprimer les défauts des autres. Satan est plutôt doué pour cela. Je me demande combien de fois il a répété ses accusations contre Job avant de porter son affaire devant Dieu. Nous pouvons faire cela contre d'autres personnes. Et vous savez ce que c'est? C'est simplement nourrir la colère dans notre cœur, le ressentiment. Combien de fois nous entraînons-nous à nous plaindre de quelqu'un ou d'une autre personne? Et si vous le faites suffisamment souvent, vous devenez assez doué pour cela, et vous êtes impressionné par vous-même, alors vous allez vous plaindre de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Nous allons voir notre mari. Eh bien, c'est la personne à qui je demande conseil. Non, c'est la personne à qui vous allez vous plaindre des autres et exprimer votre colère envers eux. Nous allons voir nos femmes, nos maris, nos sœurs. Nous allons voir notre pasteur avant même d'aller voir la personne concernée. Cela ne fonctionne presque jamais, car cela enfreint Matthieu 18, 15. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Mais je vais vous demander de le noter et de revenir en arrière pour le lire lentement. Comment dit-on déjà? La pratique ne rend pas nécessairement parfait, mais elle rend permanent. Ne repassez pas les offenses en boucle, car vous allez devenir parfait dans l'art de vous mettre en colère. Éphésiens chapitre 4, c'est la première étape. Mettez-le de côté. Réglez le problème avant le coucher du soleil. Avez-vous déjà essayé d'utiliser des mots doux envers vous-même? Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Une réponse douce. Eh bien, Si vous vous mettez en colère, encore une fois, persuadez-vous de ne pas vous mettre en colère. Dites-vous des mots doux à propos de quelqu'un d'autre. Oui, une réponse douce à votre femme si elle est en colère, ou à votre mari, ou à un collègue de travail. Cela peut apaiser la colère. Et qu'en est-il de vous-même? Avez-vous déjà essayé d'appliquer cela à vous-même, en vous répondant avec douceur afin de ne pas être en colère contre vous-même ou contre quelqu'un d'autre? Éphésiens chapitre 4. C'est donc la première étape pour se dépouiller et marcher dans une vie nouvelle. Voici la deuxième étape, Éphésiens 4, verset 27, « Ne donnez pas prise au diable. » Tout cela est lié. Deuxième étape, « Ne laissez pas Satan s'immiscer. » Gardez-le hors de nos affaires. Le mot « place » signifie ici « opportunité »,« prise » ou « espace ». Entretenir trop longtemps la colère, la rage, l'amertume ou le chagrin permet à Satan d'influencer votre nouvel homme. Satan ne crée rien de tout cela. Il rôde, attendant de les exploiter pour nous dévorer. Il veut dévorer l'homme nouveau. L'ancien homme est mort. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2. Partons de là. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, silence, verset 8, « Je vous exhorte à confirmer votre amour envers lui. » Paul parle ici de la réintégration du jeune homme qui a couché avec la femme de son père, qui s'est repenti et qui souhaite revenir. Eh bien, qui a besoin d'apprendre la leçon maintenant? Qui apprend la leçon maintenant? Je vous supplie de confirmer votre amour pour lui. Car c'est aussi dans ce but que je vous ai écrit, afin de connaître votre loyauté, pour savoir si vous êtes obéissant en tout. À qui vous pardonnez quelque chose, je pardonne aussi. Car si j'ai pardonné quelque chose, toute offense contre lui, l'apôtre Paul aurait pu parler de n'importe qui, à qui j'ai pardonné, c'est pour vous que je l'ai pardonné en la personne du Christ. Le nouvel homme est tenu de faire ces choses, de renoncer à ces choses. Il disait aux Corinthiens de ne pas infliger d'autres punitions. Il semble, ou du moins c'est ce qu'il semble, qu'il soit allé trop loin. Beaucoup, dit-il, l'ont fait au verset 6. Beaucoup l'ont fait, et il semble que même des dirigeants aient été impliqués. Là où va la tête, le corps a tendance à suivre. N'est-ce pas? Je peux vous dire qu'il nourrissait probablement du ressentiment à cause de l'embarras que ce jeune homme avait causé à la congrégation locale, aux Corinthiens. C'était des sentiments de ressentiment, mais qu'ont-ils fait de ces sentiments de ressentiment une fois la punition infligée? Il semble qu'ils aient continué à nourrir ce ressentiment. Et voici ce que Paul, l'apôtre Paul, leur dit gentiment de faire, arrêtez. Vous devez cesser de punir cet homme. Et j'irai même plus loin. La raison pour laquelle il ne pouvait pas cesser de le punir, ou voulait continuer à lui infliger des punitions, c'est parce qu'ils n'avaient pas réglé leurs propres sentiments de ressentiment ou de colère envers cet individu. Verset 11. Afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous. Pourquoi? Pourquoi leur disait-il cela? Parce qu'il laissait à Satan la possibilité d'agir. Car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Ils couraient le risque que Satan prenne l'avantage sur eux. Le mot « avantage » signifie « tromper » ou « déjouer ». Lorsque nous permettons à notre ancien comportement de s'exprimer, lorsque nous ne renonçons pas à notre ancien comportement, Satan rencontre peu de résistance et peut nous déjouer. Il est dans la pièce. Et croyez-moi, il est rapide et agile. L'apôtre Jacques nous dit de résister au diable, et il fuira loin de vous. Mais comment résister au diable, monsieur Houk? Renoncer à la rancœur est un moyen pratique de chasser Satan. Renoncer à la colère. Renoncer à la fureur. Renoncer aux sentiments et aux comportements de l'ancien homme, C'est ainsi que nous nous opposons à cet être lubrique, intrigant, manipulateur, mensonger et malfaisant. Mettez de côté tous ces types de sentiments. Et l'apôtre Paul a dit, je le peux. Vous le pouvez aussi. Pourquoi? Je suis un homme nouveau en Christ, et vous êtes un homme nouveau en Christ. Et nous? Avons-nous tendance à nous accrocher aux choses plus longtemps que nous ne voulons l'admettre? Nous devons tous apprendre à lâcher prise plus rapidement, qu'il s'agisse de notre conjoint, converti ou non, de nos enfants, de nos collègues de travail. Mes frères, il est primordial que nous abandonnions ces sentiments qui divisent, car ils laissent de la place à Satan. Lorsque nous sommes unis, Satan n'a pas la possibilité de s'immiscer entre nous. Mais si nous nous séparons, même par des sentiments, cela donne à Satan la possibilité de s'immiscer entre nous. Ou votre mariage. Ou vos enfants. Ou votre équipe de travail. Qui? Moi, monsieur Hook. Je ne suis ni en colère ni amère. Je peux mettre mes sentiments de côté et pardonner. J'ai pardonné à cette personne. Vous voulez que j'oublie aussi? Eh bien, vous n'avez pas vraiment pardonné, n'est-ce pas? Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et encore une fois, je ne m'adresse pas seulement à votre nouvel homme, je m'adresse à mon propre nouvel homme. Ce verset révèle également ce qu'il faut faire lorsque nos sentiments prennent le dessus. C'est assez facile à comprendre, mais c'est encore plus clair dans Éphésiens 4. Passons à Éphésiens 4. Éphésiens 4. Voilà. Ces programmes d'auto-assistance ou ces programmes en 12 étapes. Laissez-moi vous donner un programme en une seule étape pour le nouvel homme, car l'ancien homme a besoin d'environ 50 étapes pour se réhabiliter, si tant est qu'il puisse se réhabiliter. Il ne se réhabilite ni ne se réforme jamais vraiment. Verset 28. Éphésiens 4 verset 28 que celui qui volait, préparez-vous, ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains le bien, oh, il y a là un indice pour une autre étape. Nous n'y sommes pas encore. En faisant de ses mains le bien, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que nul propos malséant ne sorte de votre bouche. Oh, fermez votre bouche. Arrêtez. Avant ce que vous allez dire, avant de dire ce que vous allez dire, ne le dites pas. Mais seulement ce qui est bon pour l'édification, oh, voilà un autre indice sur la direction que nous prenons. Afin que cela apporte la grâce à ceux qui l'entendent. Quoi? Je suis en colère. Je veux dire pourquoi je suis en colère et ce que cette personne a fait. Non, vous devez vous arrêter, car ce qui doit sortir de votre bouche en tant que nouvel homme en Christ doit édifier. Oh, je veux démolir. Je veux détruire. Non, nous sommes appelés à édifier et à construire, à apporter la grâce à ceux qui écoutent. Oh, juste les personnes à qui je me plains d'une autre personne, c'est cela? Non, la personne elle-même est également incluse. Lorsque nous ne parvenons pas à nous débarrasser de la convoitise, de l'orgueil, de la cupidité, du ressentiment, de l'amertume, de la colère ou de la fureur, et finalement du péché, la Bible dit, arrêtez. Cessez de mentir aussi vite, voire plus vite, que vous renoncez à la colère avant la fin de la journée. Cessez de voler Dieu. Cessez de voler ses dîmes, la première, la deuxième ou la troisième. Cessez de voler tout ce qui appartient à Dieu. Cessez immédiatement de voler tout ce que vous volez aux autres. Cessez de tricher. Cessez de forniquer ou de commettre l'adultère. Quand? Aujourd'hui, avant le coucher du soleil. Jetez tous les vêtements inappropriés qui ne rendent pas hommage à qui vous êtes en tant que nouvelle créature en Christ. Cessez les propos obscènes et corrompus. Cessez les propos insensés et les plaisanteries déplacées. Cessez toute forme de blasphème. Cessez d'utiliser des euphémismes qui prennent le nom de Dieu en main de manière détournée. Cessez de violer le sabbat. Cessez de menacer et de vous battre. Cessez votre ivrognerie. Cessez de médire. Cessez de chuchoter. Cessez de murmurer. Cessez de dire du mal. Cessez de colporter des ragots. Cessez de semer la discorde ou la division. Parents, cessez de provoquer vos enfants à la colère. Enfants, cessez de déshonorer vos parents. Quoi que vous ayez fait qui soit conforme à la conduite de l'ancien homme, cessez-le. Cessez-le avant que le soleil ne se couche ou avant qu'il ne se lève. Arrêtez vos pieds, arrêtez vos mains, y compris votre bouche et toute autre partie de votre corps, immédiatement. Et une fois que vous avez arrêté, souvenez-vous de la première étape, débarrassez-vous de ce qui alimente cela. Débarrassez-vous de la luxure et de l'orgueil. Arrêtez ces causes de convoitise. Débarrassez-vous de votre volonté propre et de votre satisfaction personnelle. Jetez toute affection excessive. Mettez de côté les imaginations, les mauvaises imaginations du cœur. Écartez la dureté de cœur, l'entêtement et la rébellion. Écartez l'envie, la jalousie, la colère, la haine, l'amertume, la fureur, et la liste est longue. Écartez votre amour de l'argent. Éliminez la vanité, la fierté, l'ingratitude, l'impatience et le mécontentement. Écartez tout cela. La deuxième étape est donc simple, chassez Satan et fermez-lui la porte. Ne laissez pas le diable prendre l'avantage. Pourquoi? Et c'est absolument essentiel. Une des raisons est certainement d'éviter les dommages que vous causez à vous-même et aux autres lorsque vous faites l'une de ces choses. Arrêtez. Arrêtez avant de le faire, car il est difficile de remettre le génie dans la bouteille une fois que vous avez agi, une fois que vous avez parlé. Il s'agit alors de limiter les dégâts. Parfois, vous vous êtes même forcé à agir et à adopter davantage le comportement de votre ancien moi, en vous justifiant, « Eh bien, je l'ai fait à cause de ceci. Je l'ai fait à cause de cela. Non, j'avais tort. Je n'aurais pas dû faire cela. J'aurais dû parler davantage avec grâce et compréhension, essayer de comprendre, édifier et unir. Car si vous ne suivez pas les étapes 1 et 2, ou 2 et 1, elles sont interchangeables, c'est là que cela devient incroyablement dangereux pour l'homme nouveau. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque vous ne vous débarrassez pas rapidement du mal ou du péché et que vous laissez Satan agir dans votre vie, si je laisse cela se produire dans ma vie, cela attriste l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'agit que dans l'esprit spirituel du nouvel homme, et non dans l'esprit charnel qui aime les voies de l'ancien homme. L'esprit charnel et l'Esprit de Dieu sont des ennemis jurés. L'esprit charnel n'est pas mort avec l'ancien moi. L'ancien moi est mort. Les souvenirs charnels de ce mode de vie persistent encore. La manière dont vous pouvez faciliter, et non entraver, l'œuvre de l'Esprit de Dieu est d'arrêter et d'exclure Satan. Car voici ce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il n'est pas entravé, aidera notre nouvel homme à faire, il l'aidera à franchir la troisième étape, la plus décisive. L'Esprit de Dieu vous aidera à barrer la porte et à placer derrière elle des objets inamovibles qui empêcheront Satan d'entrer. Colossiens chapitre 3. Ce sera notre dernier verset avant de conclure. Colossiens 3, et nous allons passer à la deuxième moitié du verset 9, où nous avons commencé, « Puisque vous avez dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et revêtu le nouvel homme, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 14. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. La troisième et dernière étape pour se dépouiller complètement consiste à se revêtir. La nature a horreur du vide. Nous devons immédiatement remplacer ce dont nous nous dépouillons. Je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque nous avons lu ces versets. Cessez de dire ce qui est mauvais, destructeur et nuisible à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'autre, et remplacez-le par des paroles de miséricorde, de bonté, d'humilité d'esprit, de douceur et de longanimité. Paul ne nous dit jamais de nous dépouiller sans nous dire aussi de nous revêtir. Je suis sûr qu'il parle d'après son expérience personnelle. Revenons à la colère. L'homme nouveau est capable de se mettre en colère. Nous l'avons déjà établi. Avant de répondre ou de parler à quelqu'un, ou avant d'arriver chez vous, parlez-vous à vous-même et, encore une fois, essayez d'appliquer Proverbe 15, une réponse douce apaise la colère. Ainsi, au lieu de paroles ou d'actions colériques, utilisez une réponse douce. Des paroles douces. Des actions douces. Les paroles blessantes attiseront la colère et attristeront également le Saint-Esprit. Réfléchissez, il est impossible que la colère occupe notre nouvel homme si nous l'avons déjà rempli de longanimité et si nous continuons à accumuler de la longanimité, encore plus de longanimité. C'est pourquoi nous demandons davantage de l'Esprit de Dieu. C'est l'un des fruits de l'Esprit. La Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Pourquoi ? Parce que toute notre marche dans la nouveauté de la vie consiste à nous dépouiller et à laisser de la place pour nous revêtir. Notre homme nouveau enlève constamment ses vieux vêtements et en revêt de nouveaux. Rappelez-vous, l'ancien homme est mort. La Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Pourquoi ? Parce qu'il vous remplit de la plénitude de Dieu. Soyez remplis de la connaissance de sa volonté, de toute sagesse et de toute intelligence spirituelle. La Bible nous dit d'être remplis de joie. La Bible regorge de choses dont nous pouvons nous remplir. Vous ne pouvez pas remplir votre nouvel homme avec tout cela sans l'Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit ne peut agir sans entrave que si vous suivez les étapes 1 et 2, si vous vous débarrassez de vos sentiments et si vous n'agissez pas. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Fermez la porte. Si vous ne le faites pas, vous inhibez l'esprit si vous ne vous débarrassez pas de l'ancienne conduite de l'ancien homme. Si vous avez atteint la colère, débarrassez-vous-en. Et si vous avez fait quelque chose, excusez-vous et repentez-vous. Changez. Changez de vêtements. Abandonnez la colère et la rage, l'amertume et le blasphème, excusez-vous même de les avoir revêtus, et revêtez toutes ces choses dont nous venons de parler, la miséricorde, la bonté, l'humilité d'esprit, la douceur, la patience, et la liste pourrait s'allonger encore et encore. Remplacez votre colère par la douceur. Si vous en êtes au point de ressentir de la malveillance envers quelqu'un, de vouloir lui faire du mal, revêtez-vous de bonté. C'est assez intéressant de voir comment ces sentiments s'opposent les uns aux autres. Le pipeline. Si vous vous trouvez n'importe où le long du pipeline, nous pouvons l'arrêter et le remplacer, puis commencer à travailler à rebours. Méditez là-dessus. Réfléchissez-y. Si vous en êtes au point de parler de manière irrévérencieuse de Dieu, de son Église, de son gouvernement, arrêtez. Abandonnez l'orgueil et revêtez-vous d'humilité. Et enfin, si vous luttez contre un langage obscène ou corrompu, demandez à Dieu de vous aider à revêtir votre nouvel homme de miséricorde. Chaque fois que vous voulez vous débarrasser de quelque chose de votre nouvel homme, ne vous laissez pas nu. Cherchez dans les Écritures. Cherchez dans votre esprit. Cherchez en priant Dieu pour savoir ce que vous pouvez revêtir. Non, je lui ai pardonné. Mais ressentez-vous de la longanimité envers cette personne? Je ressens de la rancœur envers lui. Je l'ai ressenti. Je m'en excuse. Maintenant, avez-vous envie de faire quelque chose de bien pour cette personne? Ne vous contentez pas de mettre en pratique à moitié vos paroles de repentance ou de changement, mais mettez-les pleinement en pratique en vous revêtant. Et voici le fruit qui fleurit. Voici la fleur qui s'épanouit lorsque nous faisons tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, lorsque nous marchons véritablement dans une vie nouvelle. Terminons avec le verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si un homme nouveau, j'ajouterai, a un différend avec un autre, un homme nouveau ou quelqu'un en dehors de l'Église. Comme Christ vous a pardonné, faites de même. Et nous pourrions ajouter, soyez généreux, utilisez des paroles édifiantes et faites beaucoup de bonnes œuvres. Frères et sœurs, le christianisme n'est pas une gestion du comportement. Ce n'est pas une réhabilitation de soi. Ce n'est pas une réforme de l'ancien homme. Ce n'est pas non plus une amélioration progressive de ce que Dieu a déjà déclaré devoir mourir. Dieu n'a pas amélioré Abraham. Il n'a pas amélioré Jacob, Simon ou Saul. Il a travaillé avec Abraham. Il a travaillé avec Israël. Christ a travaillé avec Pierre. Et Dieu a travaillé avec Paul. Au baptême, vous avez renoncé à l'ancien homme que Dieu ne voulait pas développer et vous avez revêtu celui qu'il a créé en Christ, celui avec lequel il peut travailler. Réfléchissez-y alors que nous entrons à nouveau dans la période précédant la Pâque. Vous aurez un peu moins de frustration, un peu moins de confusion, un peu moins de déception, car vous savez que vous travaillez avec un homme nouveau capable de tout ce dont nous venons de parler aujourd'hui. Mes frères, lorsque vous tomberez, et vous tomberez, lorsque vous glisserez, et vous glisserez, ne soyez pas confus, frustrés ou découragés plus que nécessaire. Votre vieil homme est mort. Le mien aussi. Je trouve intéressant que Dieu ait dû dire à Josué, en quelque sorte en passant, que Moïse était mort à plusieurs reprises. Parfois, nous devons simplement prendre conscience que nous sommes morts, notre ancien moi, et que celui qui se bat aujourd'hui, c'est le nouvel homme. Le nouveau car. Le nouveau Freddy. Le nouveau Fred. La nouvelle Sally. Le nouveau, insérez votre nom. Vous apprenez à faire en sorte que le nouvel homme n'imite pas l'ancien. C'est votre travail. Alors, lorsque votre ancienne conduite refait surface, arrêtez-la rapidement. Ne la laissez pas perdurer après le coucher du soleil. Souvenez-vous de la date limite. Fermez la porte à Satan. Ne lui laissez pas de place. Et puis faites ce que l'Esprit vous a donné pour vous aider à faire, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, de pardon, de charité, et allez de l'avant, toujours de l'avant. Car lorsque nous faisons cela, mes frères, lorsque nous nous dépouillons et nous revêtons véritablement, nous distinguons l'homme nouveau de l'ancien, nous nous séparons du faux christianisme et nous donnons au monde une image réelle de ce qu'est le vrai christianisme. Nous nous distinguons du monde. Mes frères, ce n'est pas de la gestion du comportement, c'est marcher dans une vie nouvelle.